Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Comic City, épisode numéro 54. Je suis Steve et je suis avec
Mister... Non, enfin Monsieur Nemoni.
Monsieur
Ouais,
Nemoni. Ah, tu vois, c'est pas moi qui me suis trompé cette fois.
enfin voilà. Et il faut vite qu'on se dépêche parce qu'il n'y a que des déconnexions depuis tout à l'heure, donc faut qu'on enregistre l'épisode très très vite avant que ça se déconnecte une nouvelle fois.
C'est le podcast de la mort. Déjà, on est à la bourre puisqu'on enregistre le... On est le 3. Je sais même pas quel jour on est en plus. C'est magnifique.
Deux,
On...
trois, ouais. Le 3, le 3 mai.
Le 3 mai, hein, pour un truc qui concerne les sorties de fin avril.
Ouais.
On a eu un programme chargé ces derniers temps, donc voilà. J'espère faire le montage très vite pour pouvoir le sortir très vite et qu'on
Oui, alors
passe très
j'espère que vous
vite
n'êtes
à
pas
autre chose.
pressé. J'espère que vous n'êtes pas pressé à lire les sorties librairies notamment. Voilà. Que vous les avez gardées bien au chaud pour plus tard.
Bah, le mieux, c'est de ne pas avoir fait vos achats, savoir ce qu'il faut acheter ou non,
Oui.
ce qui est totalement indispensable.
Voilà. Surtout que la
Bref.
librairie reste un petit peu plus longtemps que le kiosque, donc.
Bien
Enfin,
sûr.
quoi que. D'ailleurs, ça dépend, en fait. Dans les comic shops, il y a toujours le kiosque aussi qui reste un petit peu. Bref.
Allez, on passe aux news de la quinzaine, j'allais dire de la semaine, de la
Oui.
quinzaine, et on va commencer par un point sur la Comic-Con, puisque ça a pas mal bougé cette semaine. On l'avait annoncé dans le Comics Weekly que la Comic-Con allait révéler les premiers invités, et ça a été fait 2 heures après notre enregistrement. Pas de bol.
Voilà. C'est les
Donc,
aléas du direct, j'allais dire.
oui, voilà, ou
Du
du...
direct différé, enfin
Voilà,
bon.
le direct différé, voilà, le one-shot, quoi. Les invités, les premiers invités, bah c'est la Whip Agency qui les a annoncés. Donc les gens qui sont présents dans l'Artist Alley. Alors il y en a beaucoup. Je vais en citer quelques-uns. Je vous renvoie vers la liste. Je mettrai un petit lien vers la liste des invités de la Whip Agency. Mais on trouve notamment des gens comme Laurent Arthaud, comme Marty, Tony Dujeunet. On
Donc,
trouve, oui,
ouais,
pardon, vas-y, excuse-moi.
Oplitea, disons-le par
Oui,
exemple, pour...
par exemple,
Voilà.
Anthony Dujeunet de chez Manga. Ou on dit-on Wanga d'ailleurs, je ne sais pas.
Je crois que c'est Wanga,
D'ailleurs,
je
bon,
crois.
ok, bien, bien. Donc une grosse claque dans ma face.
Bah, je sais pas, en même
Voilà,
temps, c'est
c'est
peut-être
fait.
moi, je sais pas.
Maxime Gabarini, on trouve Joffo qui vient de sortir Vidboon, Renato Guedes, qui a
Ah,
travaillé sur
Renato Guedes, oui.
Superman, notre ami Julien Huguenin-Harbert,
Ah, mais qui c'est? Ça lui
Stéphane
fera
Roux.
plaisir.
Stéphane Roux sera là aussi.
Oui.
Bon, beaucoup, beaucoup de monde. Je vais vraiment pas citer tout le monde parce qu'il y en aurait pour longtemps, mais je vous mets le lien vers la liste. Vous verrez. Et la liste n'est pas complète. Elle risque de s'allonger encore, car d'autres artistes pourront peut-être se libérer pour la Comic-Con. Donc, ça va faire du monde déjà. Et ça, c'est juste les Français. Bientôt, les annonces des auteurs américains.
Bien sûr, bah, tout à fait. Il y en aura, j'allais dire à l'appel, peut-être pas à l'appel, peut-être pas autant, mais il y en aura beaucoup d'annoncés.
On continue avec d'autres événements qui auront lieu pendant la Comic-Con. Vous pourrez retrouver, donc j'en avais déjà parlé, Rebel Legion French Base, qui sont des fans de Star Wars.
On l'aurait
Nous
deviné, oui.
aurons aussi la 501e Legion of Darth Vader, qui seront là, et donc qui sont,
501e.
501e Légion, qui se surnomme aussi le Point de Vador. Et
Ah oui,
qui sont
d'accord, mais
les...
c'est pas la 501e fois qu'ils font ça.
Non, non, mais c'est une association
D'accord.
où les mecs se déguisent, enfin se déguisent.
En Dark Vador.
C'est pas du tout du méchamment. Hein. Ils viennent habillés en Stormtrooper et en Dark Vader.
Ouais. Oui,
Donc voilà.
on les voit sur de nombreuses conventions d'ailleurs, ils sont très
Oui,
actifs
ils sont
alors.
très actifs. Donc du coup, ça pourrait peut-être être sympa d'avoir la Rebelle et la 501e Légion.
Oui, qui s'affrontent.
Ben, voilà, peut-être aurons-nous un combat entre les deux. La
Peut-être que notre
Rebel
stand
Legion
sera
French Base,
détruit
voilà.
par ces individus.
Vous aurez entre autres aussi une exposition de Lego, ce que je trouve génial.
Oui, on voit quelquefois des constructions assez impressionnantes. Donc
Voilà.
si c'est ce type de construction, effectivement, ça risque d'être intéressant.
Et encore bien d'autres choses, nous en parlerons de toute façon dans les prochaines semaines. Mais voilà, le programme cesse de s'alourdir.
Et
Et
on l'a pas rappelé, je crois. G. Scott Campbell, quand même.
J. Scott Campbell, en invité d'honneur, bien sûr. Donc je vous rappelle les dates, bien sûr, pour ceux qui auraient oublié, mais comment peut-il? Du 30 juin au 3 juillet,
Oui,
Palais
Paris
des
Nord.
Expositions, Paris-Nord Villepinte. Mais venez, venez à la Comic-Con. Venez nous voir.
C'est si joliment dit que là, je pense que fou, ça donne envie, hein, dis donc. Surtout nous, surtout toi. Voilà, venez voir l'homme qui parle là. Venez voir sa tête en vrai. Ça vaudra le déplacement.
Salaud. On va passer au reste des news.
Oui, passons vite au reste des news. Alors, bah le reste des news, j'y vais, gigot.
Eh bien, Daniel.
Allez, voilà, exactement. Je t'attendais ce que tu fasses cette blague, que tu rebondisses.
C'était, j'ai pas pu m'en empêcher.
Ah oui, alors, nouveau trailer, on va passer aux news ciné. Hein, nouveau trailer pour X-Men First Class, trailer qui est facilement trouvable sur Internet. Il y en a eu plusieurs des trailers dernièrement. Un trailer qui se veut, enfin, rassurant, oui et non, parce que moi je ne suis toujours pas convaincu, néanmoins. On se souvient du trailer Wolverine qui était assez sympathique, et puis finalement, on se souvient du film, quoi.
Surtout.
Voilà. Voilà, donc moi les adaptations, enfin les adaptations et moi ça fait deux, et là je pense qu'on va pas être super amis non plus avec X-Men First Class.
Tu as été voir Thor, hein. Tu avais fait un article de ta review sur Cap Chronicles, donc si vous ne l'avez pas lu, allez-y, rapidement.
Mais rapidement, c'est un bon divertissement, je m'attendais à rien, j'ai été relativement agréablement surpris. Mais ça m'a fait penser un petit peu à un Disney, c'est assez marrant, quoi. C'est, enfin, Thor, à mon sens, plus qu'Iron Man, s'adresse à un jeune public.
D'accord.
Il y a l'emphase est faite sur l'histoire sentimentale entre Thor et Natalie Portman, donc Jane Foster. Et voilà, c'est assez comique aussi. Et non, ça m'a étonné. Je m'attendais pas vraiment à ça. C'est assez, enfin là on peut pas dire qu'ils ont pas fait grand public, quoi. C'est très large, on peut y aller de 7 à 77 ans, j'allais dire.
Et dans l'ensemble, conseilles-tu ou pas?
Oui, on passe un bon moment. Voilà, on passe un bon moment. C'est pas le film du siècle non plus. Alors les critiques sont assez positives, hein, dans l'ensemble quand même. Moi j'irais pas jusqu'à dire que c'est la meilleure adaptation Marvel comme j'ai pu lire sur internet, mais c'est pas mal, c'est pas mal, d'accord. C'est pas mal. C'est mieux que ce à quoi je m'attendais, donc
Et allez, faisons le geek jusqu'au bout. Qu'as-tu préféré, Iron Man ou Thor?
Ah, le premier Iron
le
Man.
Le premier.
Ouais, le premier Iron Man, j'ai quand même préféré, ouais.
D'accord. Que Thor. Okay. Bah, je vais essayer de me libérer un créneau pour aller voir ça, quand même, parce que j'ai toujours pas vu. Et puis ce sera peut-être l'occasion pour moi de voir un film en 3D, même si je sais que la 3D...
Voilà. Ouais. Beaucoup de salles, voire même toutes, je ne sais pas, le diffusent en 3D. La 3D sur ce film est totalement accessoire. C'est vraiment histoire de faire payer la place plus chère, de le rembourser plus haute.
Disons que je n'ai toujours pas eu l'occasion d'enfiler les lunettes au cinéma. Donc voilà, enfin, pour tout dire, mon dernier film au cinéma, c'était Watchmen.
Très bien, c'est
voilà, donc
dit en plus que ça méritait d'être dit.
Voilà, tu vois que je ne vais que très 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 rarement au cinéma.
Ouais, en effet. Ouais. tu n'as pas vu Avatar donc?
Non.
D'accord.
Ni en DVD depuis sa sortie.
Très bien. Bon, ben voilà, c'est dit.
C'était la minute inutile, mais qui fait toujours plaisir.
Exactement. Alors,
je ne promets pas qu'il n'y en aura pas d'autres, hein, tout au long de ce podcast.
Tu parles de Thor, donc transition avec les Avengers, le film Avengers qui a commencé à être mis en production. Enfin, je sais même pas d'ailleurs.
Oui, ils ont commencé à tourner le film.
Voilà, ils ont commencé à tourner le film et alors une image a filtré, par exemple, avec au fait le nom de chaque super-héros sur des sièges, qui montre bien que on aura donc normalement Robert Downey Jr. en Iron Man, Chris Hemsworth en Thor, Chris Evans en Captain America. On retrouvera Jeremy Renner en Hawkeye. Alors, petit spoil, il fait une apparition dans Thor déjà.
D'accord.
Mark Ruffalo sera donc en Hulk. Scarlett Johansson reprend son costume moulant de Black Widow.
C'était l'adjectif qu'il fallait, hein.
Voilà, Clark Gregg reprend son très beau costume, très classe, de l'agent Phil Coulson, qui va être rendu célèbre par les films, hein, vraiment, puisque c'est un personnage qu'on retrouve tout le temps en ce moment.
Je ne sais même pas qui c'est.
Ah bah oui. Ah, ah oui, si tu...
Ah oui. Ça se trouve, il est peut-être apparu dans Iron Man 2, mais comme je l'ai toujours pas vu.
Mais oui, voilà, exactement. Il est apparu dans la fin du premier Iron Man, je crois. Ou dans le premier Iron Man, d'ailleurs, il y est aussi.
Je t'avoue, je ne l'ai pas revu depuis le cinéma non plus.
Ouais. Non, mais c'est cet agent du Shield qu'on voit assez régulièrement dans les films. Et à mon avis, il va apparaître un de ces jours dans l'univers Ultimate ou même dans l'univers classique. Samuel L. Jackson, donc en Nick Fury, bien sûr. Et on aura également l'agent Maria Hill aussi dans le film, joué par Cobie Smulders. Et Tom Hiddleston reprend le rôle
de Cobie Smulders, qui est tout droit sorti de How I Met Your Mother.
Ben voilà. Donc tu
vois, je la voyais pas du tout en Maria Hill, quoi.
Et apparemment.
Ouais, pourquoi pas.
Et alors, horreur, malheur, des pages du script ont été volées. Par qui? On ne sait pas. Mais apparemment...
J'espère qu'ils en avaient des copies pour pouvoir retourner les scènes.
Bah, ils avaient sans doute des copies, mais à mon avis, justement, les scènes vont passer à la trappe, ou du moins vont être modifiées, du coup, puisqu'il semblerait que ce soit des vrais. Hein, au fait, le voleur a pris des photos, carrément, des pages du script qu'il a volées. Elles ont été diffusées sur Internet, donc bon, bah, il semblerait que ce soit bel et bien vrai. Alors, qui a fait le coup? Est-ce qu'on en saura plus un jour? Bon, il y a de fortes chances que les
Allez.
scènes en question soient modifiées, du coup.
Je peux comprendre, je peux comprendre qu'on veuille savoir absolument, etc. Mais là, franchement, ça me dépasse, quoi. Mais quel est l'intérêt de faire ça? Enfin, autant se réserver un peu de surprise quand même.
Ah oui, mais à mon avis, si ça tombe, c'est quelqu'un de la production qui s'est
Bah,
fait
bien sûr,
pincer,
bien
qui fait
sûr.
partie du projet, qui du coup est pas content et pour les mettre à mal, à linker des pages
Oui, et
du
puis
script.
pour avoir un petit bonus dans la presse à scandale, voilà.
Voilà.
Enfin, non, mais
Voilà.
enfin, moi j'ai du mal à comprendre cette philosophie de tout vouloir avant quoi, avant la sortie. Parce que là, par exemple, tu vois, enfin, je vais reprendre l'exemple de Thor quoi. Thor est à peine sorti que déjà tout le monde pense à Captain America.
Bien sûr.
Enfin, c'est.
Avec la fameuse scène finale, d'ailleurs, que je ne spoilerai pas, mais tu t'en doutes, hein, qui annonce en partie Captain America.
Ouais, non, enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est au-delà, enfin, je veux pas rentrer dans la philosophie de comptoir, mais on a dépassé la société de consommation, quoi, c'est de l'ultra-consommation, c'est-à-dire qu'on n'a même pas digéré le truc, on ne l'a même pas mâché, qu'on est déjà passé à
On
la
l'a même pas
suite.
vu pour certains.
Ouais,
On parle
on
déjà de
a senti
Captain
l'odeur
America
du
comme
plat
on le fait dans le
arriver et on veut le
podcast.
suivant, quoi.
Oui, bah oui.
C'est pathétique.
Bah, tu vas te calmer, Steve, hein. Il y a déjà des auditeurs qui nous écoutent,
Non
qui
mais
sont
c'est vrai, enfin
contents d'avoir
franchement
les
moi
infos.
ça me dépasse quoi, ça me dépasse.
Oui. Bon, et en attendant, qu'est-ce que je voulais dire? Ce qui est assez drôle, c'est que c'est des pages de script correspondant surtout au personnage de Nick Fury qui ont été dérobées. Donc bon, c'est assez drôle de voir les pages de Nick Fury qui sont volées quand même, fallait le faire. Il y a fort à parier que cette personne voulait effectivement avoir un papier dans Iris Magazine. Je sais pas comment. Je
Ce
sais pas.
qui craint, mais ce serait que les pages soient vraiment bonnes. Et que du coup,
Ouais.
ils soient obligés de nous remplacer ça par d'autres scènes qui vont faire à la va-vite et qui seront toutes pourries, quoi. Ça me ferait franchement chier.
C'est une des pages de dialogue, visiblement. Entre Nick Fury, Black Widow et je crois et Hulk.
Tant que c'est pas du dialogue, veux-tu un café? Oui. Avec de sucre? Oui.
Ah, attends, il y a le nom de Brian Michael Bendis. Ah bah si, c'est ça. Ah ouais. Si, si. Non, ça parlait de sandwich, de café et de. Ouais. Avec des oui, des non. C'était pas très intéressant. Je
Oh, mais
plaisante.
salaud, quand même.
Ouais, bon. Alors, donc, n'en parlons plus, passons totalement à autre chose. On va partir du côté de chez DC avec l'animé, un nouvel animé qui a été annoncé. Donc, très bonne nouvelle à chaque fois quand il y a un nouvel animé. Et quel animé d'ailleurs? Puisque ce serait Batman, enfin c'est d'ailleurs Batman Year One.
Là, il s'attaque à quelque chose de gros, quoi.
Un monument, hein, des années 80, Frank Miller qui avait redéfini le personnage de Batman avec sa première année, qui nous était narrée par Frank Miller. Et la première année de Batman, eh bien on trouvait des personnages comme Batman, évidemment. La
Non.
voix, ah, si, sans blague, la voix de Ben McKenzie sera attribuée à Bruce Wayne Batman. Bryan Cranston, lui, fera le commissaire Gordon. Et attention, Elisa Dushku, fameuse
Ouh.
Elisa Dushku, fera Catwoman. Voilà.
On aura aussi
Alors,
Katy Chakov, je crois.
on a aussi, effectivement, alors tu l'as bien prononcé, donc je vais te la relaisser le dire.
Katy Chakov.
Voilà. Eh bien, on ne sait pas. Enfin, en tout cas, je ne sais pas quel personnage elle va jouer.
Oh, un personnage qui voyage dans des vaisseaux, sûrement. Ou
Oui,
c'était une
d'accord.
blague avec
Oui, bien
Battlestar.
sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais là, je me disais, attends, je cherchais par rapport à Year One, parce que je ne sais plus dans Year One quel autre personnage on voyait, au fait.
Bah, d'autres putes.
Bah, c'est sympa pour elle, merci.
Ou la femme du commissaire Gordon.
Ah, bon, d'accord. Bah,
Mais je cherche les rôles féminins.
Non, non, mais là, tu viens de dire, là, ça fait bizarre comme transition. Oui, parce que, alors, pour s'expliquer, parce que la femme du commissaire Gordon n'est pas une femme de joie, hein, comme...
Oh, comment tu n'oses pas le dire?
Non, 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 mais moi je ne dis pas les
Mais
choses comme
je n'ai pas honte, moi.
crûment. Non, mais c'est-à-dire que dans Batman Year
Bon,
One, on voit très
allez.
clairement que Selina Kyle était une prostituée. Voilà.
Mais je fais
Enfin,
partie de cette
prostituée.
philosophie-là, moi. Appelons un chat et une bite, quoi.
Très bien, c'est dit. Que dire de plus, sinon que on nous annonce aussi, pour le moment c'est plutôt au stade de la rumeur, mais on nous annonce que The Dark Knight Returns, donc la fameuse autre œuvre de Frank Miller sur Batman, qui se déroule dans le futur. pourrait être adapté aussi en dessin animé prochainement. Mm-hmm. Ben, on l'espère en tout cas.
Hein, apparemment, puisque... il travaillerait dessus, ouais.
Ouais. Donc, en tout cas, deux projets qu'on attend avec impatience. Et il sera diffusé en avant-première à la San Diego Comic Con, Batman Year One.
Ouais. 21-24 juillet.
Voilà.
C'est... à San Diego.
Oui, rendez-vous est pris. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, c'est comme le Lille Comics Festival qui se déroule tous les ans à Lille. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi cet acharnement. Mais bref. Oh, et que dire de plus? Ben, il sortira en DVD et en Blu-ray à l'automne.
Et puis bon, pour finir de vous convaincre, Bruce Timm supervise le projet.
Comme d'habitude, enfin comme d'habitude, comme souvent. Hmm? Et les meilleures productions ne sont-elles pas les productions de Bruce Timm?
Eh bien, je vous laisse méditer sur cette pensée.
Voilà. Dernière petite news ciné de derrière les fagots. La Fox travaillerait sur un relaunch de la franchise Zorro. Et alors là, c'est assez drôle, je fais la transition avec Batman, puisque ça s'appellerait Zorro Reborn. Voilà.
D'accord.
Zorro Reborn. Alors bon, pas beaucoup d'informations hein, pour le moment, mais en tout cas, le projet fait sourire.
Bah, écoute, si j'ai bien compris, ça se passerait dans un monde post-apocalyptique.
Oui, alors, exactement. Ça reprendrait l'intrigue du Book of Eli.
Eli, plutôt.
Mais... bon, Eli, enfin,
mais si tu commences en anglais, finis-le en anglais, quoi.
Oui, oui, pas Eli, non, l'autre.
Qui c'est qui fait son Jean-Claude Van Damme maintenant, hein?
Voilà, The Book of Eli. Et effectivement, oui, un univers post-apocalyptique, même complètement d'ailleurs, complètement démoniaque.
Ça peut être bizarre de voir un Zorro dans un univers post-apocalyptique, quoi.
Oui. Oui,
imaginez Mad Max un Zorro, sur un
voilà,
cheval.
J'allais dire à la Ken le survivant, mais Mad Max aussi, voilà, un Zorro à la Mad Max. Bon, on en saura plus dans les semaines, dans les mois à venir, et on vous tiendra bien sûr au courant dans les news.
J'avais encore une petite news ciné. Il y a quelques semaines, ça doit être une semaine ou deux, un nouveau trailer sur Cowboy and Aliens. Je sais pas si tu l'as vu, Benny.
Et non.
Ça m'a l'air béton.
D'accord. Ça le fameux Cowboy and Aliens. Alors attends, je croyais, c'est marrant, je croyais qu'il était déjà sorti Cowboy et Aliens.
Ah fait. Non, il sort cet été.
Ah oui, d'ailleurs seulement, d'accord.
Il sort en août.
Parce que ça fait un bail qu'on a eu les premiers trailers, les premières images.
Ou un check-it.
Oh là là.
Ah bah oui, je sais, je suis en forme.
Oui, ben en l'occurrence, je ne l'ai pas checké.
Ce sera donc un pass pour
ça. Ce sera donc un pass, voilà.
On est pathétique.
C'est très bien, voilà. On est raccord avec nous-mêmes. C'est ça qui est formidable. C'est aussi ça, Comic City. Bon, eh bien, sur ces belles paroles, on va passer au review, peut-être.
Oui, allez, on passe au review de la quinzaine. Et on commence, une fois n'est pas coutume, par l'univers Ultimate.
Oui, enfin, on va parler un petit... Enfin, on en a déjà parlé de temps à autre, mais on va consacrer une review dans Comic City à l'univers Ultimate.
Ultimate Avengers hors série numéro 1.
Alors, qu'est-ce donc?
C'est la mini-série Ultimate Thor. C'est écrit par Jonathan Hickman. Grosse surprise déjà. Dessiné par Carlos Pacheco, ancré par Dexter Vines. Donc, une équipe qui est sacrément solide, au départ, sur le papier.
Ouais. Et qu'en est-il, du coup, du résultat? Alors, déjà, si je puis me permettre, Carlos Pacheco, là, m'a vraiment fait penser, sur certaines pages, à Ron Gardner.
Ouais, effectivement.
Je sais pas si t'as eu cette impression-là, mais...
Maintenant que tu le dis, ouais.
Parce que en revoyant la tête de Thor et puis d'autres personnages et la dynamique de certaines scènes, j'avais l'impression de voir du Wolverine mystique, enfin ce genre de choses.
Mais j'avais pas l'impression de lire du Pacheco.
Mais il change souvent son style en ce moment. Hein. Il a encore changé par rapport à ce qu'il avait fait sur Ultimate Avengers, justement, le premier arc.
Ouais.
C'est moins, disons, moins fouillé, quoi. C'est plus... Ouais, c'est un style un peu différent encore et
en même temps le rythme est calme. Non, le rythme de cette mini est calme.
Oui. Mais au fait, donc scénaristiquement parlant, qu'est-ce donc? Parce que je m'attendais pas à ça au fait non plus.
Eh bien, ce sont les origines de Thor.
Les origines de Thor de Ultimate. Voilà, Ultimate Thor. Alors moi, je m'attendais au fait à une intrigue qui se déroulerait après ce qu'on avait déjà vu.
Eh ben oui, alors ça a été mon problème. Ça a été mon problème parce que je ne comprenais pas où ça allait. Et c'est seulement avec les dernières pages que j'ai compris que ça se passait avant.
Oui, ça m'a déçu d'ailleurs. En fait, il y a 3 épisodes qui t'expliquent les origines. Donc tu te dis, il va se passer quelque chose. Et au fait, dans la quatrième partie, tu te rends compte que ça te raconté ce qui se passait avant, et du coup, la quatrième partie n'est ni plus ni moins qu'un résumé de ce qui s'est passé avec le personnage depuis le début d'Ultimate, quoi.
Non, je pense que c'est plus jusqu'à Ultimate Volume, hein, jusqu'à son apparition dans
Oui.
l'équipe en fait. Jusqu'au
Ouais,
moment où
enfin,
il
y a des
rejoint
scènes,
l'équipe officiellement.
il y a des scènes qu'on revoit, je crois, le passage avec Fury dans le
Oui,
restaurant,
mais ça
etc.
c'était au début d'Ultimate, mais c'est jusqu'à ce qu'il décide de rejoindre l'équipe lors du combat contre Hulk.
Ouais.
Au milieu, donc vers le 6.
Donc en fait, il y a un ajout aux origines, je pense, d'Ultimate Thor.
Ah bah complètement, puisque maintenant on sait si il est humain, s'il est fou, s'il est un dieu. On apprend tout ça, on va pas vous spoiler le truc.
Bah, on le savait déjà à la fin d'Ultimate volume 2,
Ouais, mais disons que là maintenant c'est définitif.
parce qu'il y avait le combat contre Loki, qui était... Enfin voilà, on se rendait compte que Thor n'était pas complètement dingue.
Bien sûr,
Mais...
mais bon, là disons qu'on a quelque chose d'officiel.
Ouais, mais là, on mêle un petit peu ses origines avec, pas les origines de Cap, mais avec un certain personnage, un certain ennemi de Captain America.
En fait, c'est simple, l'histoire se passe sur trois périodes différentes. La période dite présente, d'où la confusion, puisque sortant bien après les Ultimates et compagnie, c'est vrai qu'on s'attendait à ce que ça se passe après, alors qu'en fait ça se passe légèrement avant le début d'Ultimates.
Voilà, le temps présent et le temps d'avant.
Oui, c'est
Je
bizarre.
fais du Pascal Obispo.
Hein. On a aussi une partie de l'histoire qui se passe en 1939. Et enfin, on a une troisième partie de l'histoire qui se passe bien avant dans le royaume d'Asgard.
Voilà, et toutes les trois histoires convergent en un seul et même point qui est l'arrivée de Thor dans l'équipe des Ultimates. Mais il y a un ajout donc assez, moi j'allais dire assez bon, oui et non, quoi, aux origines de Thor. Mais au fait, moi, ça m'a faim. Je sais pas si on peut le dire, mais grosso modo, des ennemis de Cap essayent de s'emparer des fameuses pierres des Nornes, quoi. Et bon, il y a un retournement de situation qu'on va pas révéler,
Qui est très très bon d'ailleurs.
mais oui, mais cette intrigue, au fait, m'a vachement fait penser à ce qu'on vient justement de lire, pour ceux qui lisent un petit peu de VO. Alors, je sais pas si on peut le dire ça justement.
Peut-être pas, non, si c'est spoiler.
De loin, hein, c'est spoiler de loin, quoi. Disons que ça me fait penser un petit peu à l'intrigue de Fury itself, quoi. Rappelle-toi. Enfin, il y a une espèce de scène qui est assez pareille.
Ouais, mais moi j'ai pas fait le lien avec Fear Itself en fait. Est-ce que j'ai voulu volontairement l'occulter de ma mémoire? Je ne sais pas.
Non, en tout cas, moi je trouve que d'une manière générale, l'univers Ultimate reprend quand même des intrigues finalement qu'on a dans l'univers classique,
À
mais...
savoir que ça a été écrit avant quand même.
Oui, bien sûr. Mais je veux dire, ça dépend en fait de l'ordre. Mais par exemple, le premier volume d'Ultimate, c'était un petit peu Secret Invasion, c'était un petit peu World War Hulk. Le deuxième, ça faisait penser à Siege avec la bataille contre Loki. Il y a beaucoup d'éléments finalement qui reviennent. Je sais même pas s'ils font exprès. Hein. Et là, on retrouve un petit peu dans Ultimate Thor, de ce que j'ai pu lire récemment dans l'univers Marvel classique.
Bon, en tout cas, cette mini m'a bien plu, même si je ne suis pas l'univers Ultimate assidûment. J'ai quand même lu les premiers Ultimate, donc voilà, enfin, je connais un petit peu, légèrement en tout cas, l'histoire du personnage, et moi j'ai trouvé ça bien fait, quoi.
C'était pas mal, mais ma déception est quand même là, puisque en fait, voilà, je m'attendais à une histoire, une nouvelle histoire, j'ai envie de te dire, pas aux origines du personnage.
Ah
Donc
bah,
je suis resté un petit peu sur ma faim, en fait.
moi je le savais d'entrée de jeu que c'était les origines du personnage, donc
Ah non, mais moi pas du tout. Non, non,
c'est
moi
pour
je me
ça que j'ai
suis.
peut-être pas été déçu. Enfin, moi ça m'a plu quoi.
Ouais, d'accord. Ben moi j'étais un petit peu déçu à la fin, quoi. Rester sur ma faim à la fin. Enfin voilà, Pascal au bistrot.
Ouais. Bah, espérons que Hickman revienne nous faire peut-être une suite sur Thor dans l'univers Ultimate, ça pourrait être intéressant.
Ah oui, non mais ça, et d'ailleurs Hickman va bosser sur l'univers Ultimate. Ça on peut le dire sans spoiler d'ailleurs.
Oui.
Puisque Sam l'a annoncé sur le site Comic City, un site que tu fréquentes assidûment, Steve.
Je connais pas. J'en ai entendu parler.
Ouais, oui, mais j'ai découvert ce site, il est assez sympa. Mais par contre, ils ont pris le même nom que nous pour les podcasts, va falloir qu'on leur en parle quand même.
C'est n'importe quoi. Bon, on va passer à la review suivante, hein, quand même. Bon, dans l'ensemble, non, pour moi, en tout cas, c'est bon, quoi. C'est vraiment sympa.
C'est pas mal, c'est pas mal. J'étais un petit peu déçu, mais en même temps, j'étais pas dans les bonnes conditions pour l'apprécier, puisque je pensais voir un truc nouveau.
Ça, je trouve que ça se lit bien. C'est relativement peu cher, ça va être 5,60€, je crois, quelque chose comme ça, de mémoire.
Oui, c'est peu cher comparé au prix habituel des Ultimate en français, puisque pour deux épisodes, on en a pour 4€ facilement.
Bah oui, c'est pour ça.
Donc là, 4 épisodes pour 5,60€, oui, c'est ça.
Et puis, même pour ceux qui ne connaîtraient pas l'univers Ultimate, ça peut être une bonne petite histoire de Thor, dans une sorte de What If, de Elseworld.
Mais j'allais dire, ils font le forcing en ce moment en français pour nous sortir des épisodes liés à Thor, hein, puisque le film... pour ceux qui auraient apprécié le film, bah, c'est surtout une bonne histoire de Thor à lire, puisque finalement, l'univers Ultimate est assez assez vierge d'une énorme continuité, quand même. Hein, quand puisque même, là, en plus, là...
10 ans,
Ah bah oui, non, mais enfin d'accord, mais là on a le droit aux origines, donc en l'occurrence, donc on peut aborder cette histoire sans jamais avoir lu l'univers Ultimate, c'est ça que
oui,
je veux
bien
dire.
Sûr, c'est sûr, ça c'est
complètement donc, donc pour ceux qui auraient apprécié le film Thor, ils peuvent s'intéresser à cette version du personnage. Même si c'est pas la vraie, entre guillemets, c'est quand même une histoire intéressante à lire.
Allez, on va passer à la suite et on passe maintenant à DC avec le Batman Universe numéro 6. Le magazine débute par 3 épisodes de Batman, numéro 695 à 697. Tony Daniel est au scénario ainsi qu'au dessin, et Sandu Florea à l'ancrage. Donc c'est la suite et fin de l'arc entamé dans le dernier épisode, dans le dernier magazine, pardon, sur Black Mask.
Ouais, sur Black Mask, mais pas que.
Mais pas que. On a un retour de tout un tas de personnages, de Catwoman, dans les pages de Batman. On a aussi le retour d'autres ennemis de Batman qu'on vous laissera découvrir.
Bon, bah beaucoup étaient déjà revenus dans les deux précédents épisodes en fait.
Ah, il y en a certains en plus.
Ouais.
Ouais, il y en a un ou deux en plus, notamment un fou, on va dire.
Oui, comme beaucoup d'ennemis de Batman, hein, généralement.
Ils donnent déjà beaucoup d'indications sur qui c'est. Surtout, dans cette histoire, on a le combat final entre Batman et Black Mask. Puisque l'arc se termine, et on a la révélation sur l'identité de Black Mask.
Oui. Bah, attends, j'allais juste te dire par rapport à ton indice que faut penser à Nono.
Ouais, mais non, mais.
Non,
mais
si.
Allez. Non, mais... On va faire.
Oh, c'est pas grave, c'est pas un gros spoil.
Donc oui, on a cette révélation de qui est sous le masque de Black Mask. Et c'est un truc que j'ai vu venir dès le premier épisode.
Ouais, mais d'ailleurs c'est simple, puisque l'indice est tellement gros, l'indice qui est donné au lecteur. On le devine très vite. Alors moi je savais qui c'était, mais je me suis dit oh là là, qu'est-ce que c'est dommage.
Je ne savais pas, j'avais des doutes, on avait parlé la dernière fois, je me demandais qui ça pouvait être, et franchement dès la lecture du premier épisode, c'est tellement gros que c'est limite du spoil quoi.
Ouais. Il a mal joué. Il aurait pu garder.
C'est le problème de pas être un scénariste, quoi. D'être à la base un dessinateur.
Bah là je pense que ce qui l'a mis dedans c'est l'indice qu'il donne quoi, qui est vraiment trop gros.
On évite de spoiler pour que vous ayez quand même un peu la surprise. La surprise du spoil.
Ouais. Je sais pas, enfin franchement, si vous êtes lecteur, auditeur de Comic City et que vous avez lu cet épisode et que vous avez pas vu qui c'était, dites-le nous et voilà quoi.
Alors, peut-être qu'après c'est la lecture VO, VF, je ne sais pas. En tout cas en VO c'était évident quoi.
Ah bah moi je l'ai lu en VF, comme d'habitude. Et oui, non. Là ça apparaît trop évident.
Alors, ce qu'il y a de sympathique quand même, parce que je vous avoue qu'honnêtement ces 3 épisodes m'ont un peu barbé.
Moi aussi, ouais. Les deux premiers étaient très bons.
Ouais, ça partait bien, et puis pouf, ça tombe quoi. Ce qu'il y a de sympathique quand même, c'est qu'on a quelques pistes pour des futures storylines. Notamment le changement de The Riddler, enfin du Sphinx en français, je sais même pas.
Ouais, alors je crois que ça, c'était dans des épisodes qu'on n'a pas eu en français par contre.
Disons qu'il fait le lien avec le reste du Bat-Universe, quoi, puisque Riddler apparaît plus dans Gotham City Sirens.
Ah oui, d'accord.
Mais il fait toujours le lien et on voit ce petit changement de Riddler. On verra si c'est pour le mieux ou pas, je sais pas trop. On a toujours cette guerre des gangs entre Pingouin, Double Face et donc Black Mask. Même si Double Face est vraiment en retrait dans les épisodes de Tony Daniel, pour le moment on a plus le pingouin mis en avant. On a donc l'apparition d'un nouveau personnage à la fin. On verra ce que ça peut donner. Je suis pas franchement séduit.
Disons que Tony Daniel se fait plaisir avec l'univers de Batman. Il réintroduit d'anciens personnages, il en crée de nouveaux. Bon,
moi, en tout cas, ça m'en fait pas du plaisir, tu vois. Ça me fait même un peu pitié, quoi. C'est un peu facile.
Ouais. Ouais, enfin bon, après, faut voir les personnages créés par Morrison aussi.
Ouais, bien sûr. Et puis, on a aussi la continuation des manigances de la famille Falcone, quoi.
Oui, non, enfin, globalement, c'est pas, enfin, j'ai pas trouvé ça mauvais, mais,
non, c'est pas mauvais.
Vraiment, vraiment en dessous des deux premières parties. Ça partait tellement bien que là, forcément, la déception est assez grande. Et on voit que Tony Daniel, effectivement, n'est pas encore un scénariste accompli, quoi.
Ouais, malheureusement. Enfin bon, ça reste sympa, quand même.
C'est beaucoup mieux que Battle for the Call.
Oui. Quoique, ça a toujours la même tendance.
Oui.
C'est de partir dans tous les sens. Et de mettre beaucoup trop et de ne pas savoir gérer.
Ouais, de mettre beaucoup trop de personnages et de faire que de la baston au final.
Il ferait peut-être bien d'essayer de gérer un peu moins de personnages à la fois, faire des arcs un peu plus centrés, un arc sur le pingouin, un arc sur Black Mask, un arc sur les Falcons, et puis voilà, résoudre les histoires plutôt que nous faire une espèce de Capharnaüm géant, où finalement, lui se perd, on le sent qu'il se perd totalement à vouloir essayer de gérer tout le monde et essayer de nous les refoutre sur les cases vite fait pour dire « Ah, je les ai pas oubliés, ils sont là », et puis nous, il nous perd aussi. Je sais pas, qu'il essaie de faire un peu moins, quoi.
Ou qu'il utilise le personnage de Cockroach, par exemple, si c'est un Capharnaüm géant.
Point, point, point.
Point, point, point,
ouais. Bon, bah, on va passer à Morrison, là, maintenant.
Ouais.
Parce que je crois que là, on a tout dit.
Ouais.
Avec cette blague.
Exactement.
Batman et Robin 7 et 8, donc Morrison au scénario. Cameron Stewart est au dessin sur ces deux épisodes. Dessin et ancrage. Et c'est un arc appelé Blackest Night avec un K. Panini nous a foutu un petit bandeau Blackest Night avec un N. Donc il va falloir qu'ils révisent leur cours de 6e.
Ah bon ?
Entre Night et Night, s'il y a un K en plus, c'est que c'est pas le même sens.
Ah mais attends, mais pourquoi ça s'appelle... Ah oui, en VO ça s'appelle Blackest Night.
Blackest Night avec un K.
Oui, comme le chevalier noir.
Comme
quoi.
Le
enfin,
chevalier.
Le chevalier le plus noir d'ailleurs.
Voilà. C'était un jeu de mots de Morrison. Apparemment, certains sont passés au-dessus.
Ah oui. Non mais moi j'ai pas fait attention, tu vois. Enfin, quand j'ai vu les couvertures à l'époque en VO, je me suis dit bon bah c'est tie-in, quoi, tu vois.
Mais pas du tout, quoi. Pas du tout. Il y a aucun rapport avec Blackest Night.
Oh, aucun. Oui, bah de toute façon à la lecture ça se voit.
Hein. Et donc c'est ridicule. Et donc c'est-à-dire que Panini,
enfin, si...
les traducteurs chez Panini n'ont vraiment pas fait gaffe. Et il faudrait vraiment qu'ils prennent des cours là, parce que franchement, confondre Night avec un N et Night avec un K, c'est quand même grave.
Ouais, non, au fait, il y a juste un tout petit lien, c'est par rapport au corps de Bruce Wayne, si on veut.
Même tu pas, vois, c'est ça. Un lien avec Final Crisis.
Ouais, enfin, on en entend parler de ce cadavre dans Blackest Night.
Bah non, puisqu'il ressuscite pas ce cadavre.
Attends, au début, il n'y a pas Black N qui s'empare du corps ?
Non, qui vole la tête.
Qui vole la tête, ouais. Oui, bon, voilà. Bon, c'est vrai que le lien est...
Allons savoir si cette histoire se passe avant ou après.
Ouais.
Voilà. Bon, en tout cas, l'arc n'est pas complet, déjà. Ce sera à suivre dans le prochain numéro. Alors, on va essayer de résumer un peu l'histoire, parce que ça se barre un peu dans tous les sens. Batman, Dick Grayson, bien sûr, va en Angleterre.
Ouais.
Car il a trouvé l'emplacement d'un Lazarus Pit. Enfin, d'un puits de Lazare de Ra's al Ghul.
Ça, au début, on le sait pas trop, en fait, pourquoi il va là-bas.
Non, bon, mais on comprend assez vite. Hein,
on le comprend assez vite. Bah, moi, je pense qu'il va surtout là-bas, parce que déjà, il y a Night and Squire, et qui sont deux personnages chers à Morrison.
Oui, qui sont les Batman et Robin anglais.
Ouais, dont je me fiche, mais comme de ma première, je ne sais quoi. mettez ce que vous voulez. Et surtout,
il amène le corps de Bruce Wayne dans ce pit de Lazare pour essayer de le faire revivre.
Oui, ce qui est... Alors, voilà, c'était ça le problème que j'ai eu avec cet épisode. C'est totalement idiot. C'est stupide. Il est bête, Dick Grayson. C'est l'idée la plus stupide qu'on ait jamais eue.
Ah, il explique pourquoi. Il sait très bien que c'est une connerie. Mais en fait, c'est ce qu'il explique à... Je sais plus si c'est à Knight ou à Squire qu'il l'explique. Il sait très bien que c'est une connerie de le faire, mais il le fait quand même parce que son amour pour Bruce est plus fort que tout, et que
ouais.
Voilà, il peut pas, il y a une possibilité, il peut pas ne pas l'explorer.
Mmh. Alors que Batman n'aurait pas fait cette bêtise, puisque, j'en veux pour exemple, la mini, alors je crois que ça s'appelait Death and the Maidens, avec Russell Gould, au fait, qui proposait à Batman, c'était dessiné par Dan Jurgens et c'était scénarisé par Greg Rucka. Russell Gould proposait à Batman de ressusciter ses parents. Et Batman, au fait, pesait le pour et le contre, et même s'il était super content de pouvoir revoir ses parents, lui avait dit non, quoi. Enfin, lui avait dit que ça aurait des conséquences trop néfastes et voilà, quoi, qu'il refusait.
Après, il y a quand même une différence, c'est que, enfin,
oui, bien sûr, c'est
une différence
c'est
entre Dick Grayson et Bruce. Bruce,
mais là, il est un peu crétin, je trouve.
C'est même principe, il essaie de ressusciter ses parents et finalement, Bruce est pour Dick un père. Donc voilà, il y a le même lien de parenté, même si c'est pas un lien du sang, c'est un lien de parenté, un lien affectif très fort. Mais Bruce est beaucoup plus sombre que Dick. Donc voilà, Dick est encore... et puis Dick est plus jeune encore que Bruce.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais enfin bon, j'ai trouvé ça un peu... Pff, je me suis dit, oh non...
Alors moi, ça m'a pas dérangé. Et puis, le Batman qui revient, tout ça est lié avec Final Crisis, et j'ai trouvé que c'était pas mal. Là, pour une fois, je le dis, Morrison, c'est pas mal. Sans Batman et Robin, c'est marrant parce que c'est vraiment les montagnes russes avec lui. C'est-à-dire qu'il y a un arc qui va me plaire, un arc que je vais trouver à chier, un arc qui va me plaire. Bon, l'arc n'est pas fini, donc peut-être que ça va tomber ensuite, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un sur deux, quoi.
Moi, j'ai trouvé ça facile. En fait, l'idée de reprendre le corps de Bruce et de le foutre dans un Lazarus Pit, je veux dire, maintenant, on nous sort le Lazarus Pit à toutes les sauces, hein, aussi.
Faut voir ce qui en sort aussi.
Bah,
et c'est là que, c'est intéressant. C'est là que c'est intéressant, je trouve, parce que c'est bien joué.
Ouais. Oui, enfin... Oui.
Ah, c'est bien joué, on le sait d'entrée de jeu que Bruce est perdu dans le temps, même si c'est pas encore publié en français, on le sait à la fin de Final Crisis, c'était montré. On sait très bien qu'il est retourné au temps préhistorique. Donc on sait très bien que Bruce n'est pas mort.
Oui.
Donc, pourquoi il y a ce corps? Enfin, tout ça est lié ensemble, et moi je trouve ça bien. Je trouve ça bien foutu.
Bah, il y a ce corps, mais enfin, de toute façon, on sait très bien, enfin, on imagine que Darkseid a, ou quelqu'un, en tout cas, a foutu un corps qui n'a rien à faire là, quoi.
Mais on attendait une explication. Comment peut-il y avoir un corps si Bruce est dans le temps?
Oui, mais l'explication, enfin, on pouvait se l'imaginer nous-mêmes, et c'est
là, ils nous en donnent une, et une qui est bonne. Moi, je trouve ça bien. Je trouve ça bien fait.
Une qu'ils auraient pu, moi, je dirais une qu'il aurait pu donner de but en blanc, quoi. Quasiment, parce que c'est une explication simple.
Bon, ça va avec Final Crisis, hein. On n'a rien compris, on n'avait rien d'expliqué, donc pourquoi nous l'expliquer à la fin?
Ouais,
c'est ça que je veux dire, tu vois.
Ouais, pour moi, c'est la question, pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour un truc finalement évident, quoi.
On a aussi quand même un petit passage sur Damian, normal, puisque Batman et Robin, et on se rappelle que Damian était dans un état... il était paraplégique à la fin du dernier arc. Hein. Mm-hmm. Il se faisait exploser la colonne vertébrale, et donc... Talia récupère son fils et le fait soigner en lui faisant une nouvelle colonne vertébrale, ce qui est magnifique.
C'est très bien la nouvelle technologie. On pourra bientôt avec une application iPhone, je pense.
Et bien sûr, pour Damian, qui ne doit pas bouger pour le laisser le temps à ce que sa moelle osseuse se répare et que sa moelle épinière guérisse, ça va mal se passer.
Mais tu vois, ça m'avait tellement passionné le dernier arc que j'avais complètement zappé le fait qu'il soit dans cet état-là.
Oui, mais je t'avouerai que j'ai été vérifier le dernier épisode parce que je me comprenais pas pourquoi il avait besoin d'être soigné, je me rappelais plus.
Non, moi non plus.
Mais c'est parce que j'ai été vérifié.
C'était tellement bien écrit, tellement bien fait que j'étais complètement passé à côté. Bon.
Donc, pour moi, c'est sympathique. Ça reste un magazine sympathique. Un peu déçu par les Batman. Vraiment surpris par les Batman et Robin. Enfin, en tout cas pour ma part. Pour toi, un peu moins.
Ouais, moi déçu dans l'ensemble de ce numéro, quoi, ce mois-ci.
Enfin bon. C'est pas très cher, parce que c'est avantage du kiosque.
Oui, c'est pas très cher pour le nombre d'épisodes en plus.
Vous avez 5 épisodes, 120 pages.
Ouais. Ouais. Non, ça reste sympathique, hein, faut pas exagérer. C'est juste qu'il y a une baisse de tension par rapport à d'habitude.
Ok, on passe à la suite, on change totalement d'univers, encore une fois. Cette fois-ci, on va du côté de Echo, volume numéro 4. Alors, au crédit, Terry Moore.
Sans blague.
Qui fait tout.
Je crois que c'était Brian Malcolm Bendis.
Ça c'est de la vanne, c'est de la vanne crossover.
Oui, voilà, c'est ça.
Et ce sont les épisodes 16 à 20.
Rappelons que Echo est publié chez
Delcourt.
Oui, en français et aux États-Unis.
Chez Abstract Studio.
Voilà, Abstract Studio.
Le label de Terrigan. Alors, résumé rapide, hein, mais très très rapide des épisodes précédents. Julie avait découvert un espèce d'alliage qui avait explosé, enfin, il y avait une espèce de bombe.
Oui. Et à chaque fois, hein. À chaque fois, hein, avec ce mot alliage, c'est, ça rappelle des souvenirs douloureux quand même.
Je n'y avais pas, honnêtement, je n'y avais pas pensé. Encore un souvenir que j'avais occulté de ma mémoire, tiens. Et merci de m'avoir réouvert cette porte de l'enfer.
Au moins, oui.
Ah oui, au moins. Donc du coup, cette bombe explose et elle était là en fait au lac, à l'endroit où la bombe a explosé. Elle se retrouve couverte d'un alliage qui a des propriétés assez particulières et qui
symbiotique, on va dire,
d'envoyer des espèces d'éclairs. Enfin, elle ne contrôle pas en plus. Hein. C'est vraiment, véritablement une arme qu'elle ne contrôle pas. Bien sûr, le gouvernement est à sa poursuite. Enfin, le gouvernement, une société privée à laquelle appartenait cet alliage, qui a engagé des espèces de chasseurs de primes en quelque sorte pour la traquer. C'est vraiment assez compliqué de résumer ça en quelques secondes.
Oui, enfin, c'est une arme, elle se retrouve arme vivante, en fuite, et comme tu dis, des agents gouvernementaux sont à sa poursuite pour s'emparer d'elle, voire la tuer, voire la supprimer si jamais elle est trop dangereuse.
Et puis bon, dans sa fuite, elle est accompagnée par Dylan, qui est le petit ami de celle qui portait l'alliage au départ qui a explosé.
Enfin, ils ont été séparés, là, du coup.
Oui, là, ils ont été séparés. Mais elle a de plus en plus de souvenirs provenant de cette première petite amie qui s'appelait Annie, de cette première porteuse de l'alliage, on va dire.
Oui.
Donc là, ça devient compliqué. On va essayer de résumer un petit peu le tome, en tout cas. Elle arrive chez Ivy, celle qui l'a pourchassée depuis le départ. Mmh. Elle est partie avec elle pour essayer de soigner sa fille, car elle s'est aperçue que l'alliage pouvait aussi lui permettre de soigner. Elle avait réussi à ressusciter Dylan, comme ça.
Ce qui peut être utile.
Ça peut être pas mal.
Ce sera aussi une application iPhone, d'ailleurs, bientôt, je vais stipuler.
Dylan, lui, de son côté, est parti enquêter sur ce projet FI, donc le projet de l'alliage, cette espèce de costume.
Ouais, de monter et un boys band. Non, je peux.
Et il tombe sur le scientifique qui travaillait avec Annie sur ce projet.
Oui, je sais plus son nom, mais...
Il s'appelait Will.
D'accord.
Et alors là, on a un des épisodes que j'ai trouvé les plus compliqués à lire dans le comics. Je crois que c'est un des épisodes les plus compliqués que j'ai pu lire.
C'est-à-dire que ça tranche radicalement avec le reste. D'habitude, Echo, c'est de l'action, et puis ça alterne avec des phases de réflexion, on va dire, de dialogue. Mais pas des dialogues comme ça. Là, c'est vraiment un cours mathématique, métaphysique même.
Ah non, c'est pas un cours. Hein. Si c'était un cours, à la base, je pense qu'on aurait compris.
Oui,
là,
non,
c'est
non,
une explication de faits mathématiques et scientifiques.
Oui.
Et alors, soit vous êtes matheux dans l'âme et vous comprenez, soit vous l'êtes pas comme moi. Et alors là, vous pitez rien du tout.
Ouais, mais c'est surtout que moi, ça m'a saoulé. En fait, ça m'a saoulé. Je me suis demandé qu'est-ce que ça vient faire là, en plein milieu. J'étais dans le rythme, j'étais dans l'histoire, et d'un seul coup, Terry Moore s'est fait plaisir. Alors sans doute, ça lui tenait à cœur d'écrire ça, mais voilà, une espèce de pamphlets mathématiques sur les chiffres, l'importance des nombres, sur des calculs pas possibles.
Et sur le fait de compter en base 10 ou non.
Oui, voilà, c'est ça. Franchement, je me suis demandé quelle était, en fait, l'utilité, le besoin qu'il avait de nous pondre un épisode comme ça qui finalement casse le rythme et est juste chiant pour qui, comme moi, a souffert... durant des années des mathématiques, hein, deux moyennes en seconde.
Bah non, mais... écoute, 3 au bac.
Mais, ah bah, voilà. Non, mais t'as poussé le vice jusqu'à faire scientifique ou ES?
J'ai fait ES, ouais.
Ah, ES quand même, putain. Moi j'ai fait L du coup. Du coup, je me suis débarrassé de ce lourd fardeau.
J'ai fait 3 au bac, quoi, F5. C'est pas mal.
Ah oui.
Bon, c'est bon, avec le rattrapage, je suis remonté à 10, mais quand même.
Ouais.
C'est bien, on étale notre vie là.
Non,
ce sont les minutes inutiles, mais qui nous font plaisir. Ben, j'avais promis qu'il y en aurait d'autres. Voilà.
Voilà, elles sont là.
Il y en aura peut-être encore d'autres.
Peut-être, oui.
Non, mais c'est vrai que franchement, moi, j'ai rien compris, quoi. Je comprends le concept de compter sur une autre base, enfin, vaguement. Mais alors après, essayer de le mettre en application, non, c'est pas possible. Qu'en gros, j'ai lu l'épisode. Il nous a donné une explication. Je ne l'ai pas comprise. Il y a eu le mérite d'essayer de nous donner une explication.
Ouais, non, mais c'est surtout ça a vraiment une question de rythme là. C'est tellement à part cet épisode que...
Mais de toute façon, tout le tome est vraiment une baisse de rythme dans
Ouais,
l'ensemble.
ouais.
On clôt certaines intrigues et on repart sur de nouvelles. Et puis on
Ouais.
va attaquer bientôt les 10 derniers épisodes. Il ne reste que 2 tomes pour la fin de la série. Et je pense que là, ça va être une longue, pas une longue scène d'action non plus. Je pense pas que ce sera 10 épisodes d'action complet, mais ça va être les 10 épisodes importants, quoi. Il va vraiment se passer des choses.
Non,
On va
non, après
vraiment
ça va
avoir
être
des
10 épisodes
révélations.
comme celui, comme le 17, avec que des trucs de maths, avec du calcul et tout.
On a le retour aussi d'autres personnages. On a des personnages qu'on connaissait qui vont basculer aussi
C'est le cas de le dire.
dans la
C'est peu
folie.
de le dire d'ailleurs. Rappelons aussi que c'est quand même assez graphique. Enfin, moi je trouve ça assez graphique à chaque fois. Je me dis, oh là, quand même.
Bon, moi, ça me dérange pas.
Ah oui, moi je trouve ça limite aussi graphique parfois qu'un Walking Dead. C'est-à-dire que Echo, c'est plus pernicieux parce qu'on s'y attend pas.
Ouais, peut-être.
Il y a quand même des moments où c'est sacrément violent. Bon, alors certes, c'est pas tout le temps, mais il y a quand même des moments assez hardcore, quoi.
Pour finir, on a quand même le retour de Kane, enfin Cain en
Ouais.
français.
Ouais. Qui ressemble d'ailleurs à au Kane de Spider-Man, hein, si tu le dis comme ça.
quelque sorte. Mais qui est toujours à la recherche de Julie, bien sûr. Et donc la confrontation entre les deux va être inévitable, surtout vu l'état d'esprit de Julie à la fin de ce tome.
Ouais. Mais grosso modo, c'est vrai que c'est un petit peu le creux de la vague. On sent que c'est qu'on s'approche de la fin et comme souvent sur certaines séries, l'auteur voilà ralentit un petit peu le rythme.
Bah, il finit certaines intrigues, il en pose de nouvelles, il en démarre d'autres choses. Mais c'est, je pense que même si le rythme est plus lent, c'est un tome turning point. Parce que beaucoup de personnages changent de mentalité et changent de façon de voir dans ce tome-là.
Ouais, bah c'est sûr que les 2 derniers épisodes, ou le dernier peut-être, je sais plus d'ailleurs, rattrapent quand même un petit peu le tout. Je me suis assez fait chier, on va le dire, hein, à la lecture de ce volume, à part sur la fin.
Moi, j'ai envie de dire, t'es un peu grumpy, hein, cette quinzaine.
Ouais. Non, là, ça a été, je sais pas, à chaque fois je prenais un truc, je me disais, allez, allez, là ça va être bien. Et puis en fait j'étais toujours soit déçu, soit je trouvais ça pas terrible du tout.
Faut dire que, vu tout ce qu'on fait en ce moment, c'est un peu, ça a été un peu dur d'arriver à tout lire.
Ouais. Et d'ailleurs, je me suis lu un truc en plus, on peut le dire maintenant. Je me suis lu le Avengers qui est sorti en 100%, alors
Avengers Prime.
Avengers Prime, ouais. Je sais plus d'ailleurs comment ils l'ont appelé en français, mais je me suis lu les 5 épisodes. C'est une mini donc qui au fait est censée raconter les retrouvailles entre Cap, Thor et puis Iron Man.
Brian Bendis, Alan Davis.
Voilà. Et au fait, c'est là où on voit que Brian Bendis est capable de raconter du rien. Voilà. Il est très fort pour mettre en dialogue rien. C'est-à-dire que il se passe rien et il arrive à faire des dialogues dessus.
Cinq épisodes quand même.
5 épisodes durant, ouais. Et puis alors, c'est vraiment à la fin, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on est au pays des Schtroumpfs. Hein. Et on est vraiment au pays des Schtroumpfs, puisque en l'occurrence ils sont chez les trolls, etc. Mais à la fin, on a vraiment l'impression d'être chez les Schtroumpfs avec main dans la main, sans déconner, Thor, Tony Stark et Steve Rogers repartent bras dessus, bras dessous, limite en chantant une chanson, tu vois. Voilà.
Ça m'a donné profondément envie de le lire.
Non, non, mais c'est ridicule. C'est ridicule. C'était ce qui était censé lancer vraiment l'Heroic Age, montrer que c'était la réconciliation entre les trois, la Trinité Marvel,
Bah,
quoi,
ils
en
sont
fait.
réconciliés, ils se tiennent la main.
Oui, voilà, ils se sont réconciliés, mais je veux dire, de quelle manière, quoi. Ça tombe vraiment comme un cheveu sur la soupe,
Ça aurait
c'est
pu être un
vraiment...
one shot, quoi.
C'est vraiment... Oui, totalement. Et c'est vraiment ridicule, en plus.
Donc là,
Aucun développement de personnage, c'est vraiment mauvais. Ne l'achetez pas. Ou en tout cas, moi, je vous le déconseille. Après, vous faites ce que vous voulez.
Ben, je vais finir ta micro-review, puisqu'on va appeler ça comme ça, avec une jolie vanne, puisque tu as dit que c'était rien pendant 5 épisodes, donc c'est rien durant.
Alors attends.
Durant.
Durant.
Duran.
Ouais.
C'est un certain groupe de Cold Wave,
Oh
Duran.
putain! Ah
Ouais, ok,
oui.
bon,
Oh là
ok.
là!
Putain,
Oh
je viens de
là
me
là,
taper
mais oh
un
là, mais
espèce de
non,
moment
mais
de
faut penser.
solitude.
Faut penser aux auditeurs aussi. Même eux, ils vont rien capter.
Bah
Bon,
comme...
écoutez, là, je suis pas d'accord avec ce que vous dites sur ce groupe, quoi. Faut arrêter ça. Non, non, non. Allez, non, vous n'irez pas à Baltar. Voilà, c'est tout.
Donc voilà la fameuse imitation de Philippe Manœuvre par Mister René Bunny, qui
ouais,
avait dit
d'ailleurs, on
qu'il
l'a
ne la
pas
ferait
vu.
pas durant un podcast, mais bon, du coup.
Ouais.
Bon, bah je crois qu'après cette séquence émotion,
émotion.
J'en suis tout mouillé. Quelle horreur. Nous allons passer à la suite de nos reviews. C'est décousu hein, comme programme.
Ouais, c'est décousu, mais en même temps, c'était des reviews assez moyennes. Enfin, des lectures assez moyennes, j'ai trouvé, dans l'ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ?
On essaie de mettre l'ambiance. C'est ça. Allez, on passe au Marvel Universe numéro 26.
Oh, le meilleur morceau. Vas-y.
On commence le mag avec les Guardians numéro 20 et 21. DNA au scénario, Brad Walker au dessin, Victor Olazaba et Andrew Hennessy juste sur le 21. Alors, je vais essayer de relire mes notes déjà, ce serait pas mal. Oui, voilà. Ils essaient de se remettre de leur perte.
Ouais.
Et c'est pas facile, surtout pour Moondragon, qui est vraiment, vraiment la plus affectée de toutes à la suite de la disparition de Phila.
Voilà, on s'en doute.
Du coup, ils essayent d'explorer aussi... c'est un peu le thème récurrent, tout le monde essaie d'explorer la faille.
Oui, bah, c'est enfin, de toute façon, c'est le pitch de Realm of Kings.
Et il faut qu'ils gèrent aussi le conseil qu'il y a sur Nowhere, parce qu'il y a une autre équipe, les Luminals, qui veulent aussi pouvoir explorer la faille.
Ouais, cependant que eux sont sur Somewhere.
C'est mauvais. C'est trop mauvais. Du coup, le conseil donne l'autorisation aux Luminals de travailler avec les Guardians, mais les Luminals décident de travailler tout seuls et ramènent quelque chose qui n'aurait pas dû de la faille.
Voilà, un petit œuf de Pâques, puisque c'est la... enfin non, c'était la période, au moment où c'est sorti, on va dire. Et ça laisse un petit cadeau à notre ami Moondragon.
Alors, c'est franchement un joyeux bordel, puisque on a les Luminals qui veulent tuer ce parasite.
Voilà.
On a l'Église de la Vérité, je crois, ça va être en français que ça s'appelle comme ça.
Je crois.
L'Église de la Vérité qui a trouvé en ce parasite un nouveau dieu à vénérer. Et les Guardians qui veulent protéger Moondragon à tout prix. Donc ça fout un joyeux bordel. Moi ça m'a fait un peu penser à The Thing, à Alien, tu sais.
Ah bah totalement. Non mais totalement, c'est ce que j'allais dire. C'est une espèce de remake d'Alien. Mais avec une espèce de replay qui souhaiterait garder son alien, quoi.
Ouais.
D'ailleurs, Moondragon, c'est vrai, fait un petit peu penser à replay maintenant que j'y pense.
Dans Alien 3, ouais.
Dans Alien 3, surtout, bah bien sûr. Ouais. Enfin bon.
À plus forte raison avec cet épisode. On en a déjà beaucoup, beaucoup trop dit. C'est sympa.
Ouais, mais enfin, en même temps, c'est pas le plus passionnant.
C'est sympa, mais on a connu de meilleurs gardiens qui là sont vraiment réduits au niveau du nombre. Il manque quelque chose, quoi.
Et il manque surtout de l'humour, je trouve.
Ouais.
Parce que d'habitude, on rigole beaucoup plus, là c'est pas particulièrement drôle. Il y a juste, comme d'habitude, une séquence débriefing.
Ouais, comme à chaque fois, ouais, les séquences.
Qui est toujours assez drôle parce que là c'est un problème de caméra, tu vois les jambes de Groot et le haut des poils de la tête de Rocket Raccoon, ça m'a fait rire.
Rocket Raccoon qui en vient même à regretter la disparition de Cosmo qu'il ne pouvait pas voir.
Oui.
Et ça m'ennuie profondément que Cosmo ait disparu.
Oui, ben voilà, non mais c'est... Du coup, on perd en humour. Et c'est dommage, c'est ce qui faisait le charme de
la moitié de l'équipe, quand même.
Ouais. Ça devient assez dramatique pour un truc qui était vraiment sympathique à lire, puisque c'était sans prise de tête, là, vraiment. C'est l'hécatombe de plus en plus, et du coup, ils pleurent leur disparu, et... Enfin, voilà, c'est dommage. J'aime moins cette direction.
Que restera-t-il des gardiens?
J'espère qu'il restera justement au moins un ou deux gardiens, histoire de relancer un jour la série, parce que parti comme c'est, je me demande s'ils vont pas les faire tous disparaître au final.
Allez, on continue avec Realm of Kings Inhumans numéro 2. DNA toujours au scénario, Pablo Raimondi au dessin, Andrew Hennessy à l'ancrage. Et donc là, c'est l'arrivée des Mighty Avengers sur Kree. Enfin sur comment s'appelle la planète? Ala, je crois.
Oui, parce que je crois. Je sais plus.
Ah là là. On n'a plus de mémoire. Je sais. C'est moisi, hein. Je sais pas ce qui se passe. Et donc les Mighty Avengers décident d'aider les Inhumains dans leur lutte pour essayer de rétablir la paix, alors que eux venaient pour rendre les cristaux tératogènes.
Voilà. Alors ça c'est un truc vieux, enfin. En termes de publication française, c'est un truc qu'on avait vu dans Mighty Avengers, mais il y a...
Oui, quelques temps, ouais.
Un an, non?
Non, pas un an, c'était, je crois, Mighty Avengers 31.
Attends, c'était pas quand on... C'était quelle saga? C'était pas la saga où ils affrontaient le fameux,
C'était
justement.
juste après la saga Unspoken.
Voilà. Qui a lancé cette fameuse salve de review absolument machiavélique qu'on doit absolument arrêter, quoi. Non, je plaisante. Bref.
voilà, bon, on a des choses qui se préparent pour la suite. Les Mighty Avengers voient l'évolution des Inhumains.
Bah, ce qui est surtout sympathique dans cet épisode, c'est finalement les dialogues entre Quicksilver et puis...
Cristal?
Enfin, Vif Argent.
Oui. Moi, j'ai préféré les dialogues en fait entre Hank Pym et Médusa.
Ah oui, c'était aussi intéressant.
Le dialogue des deux chefs, en fait, qui finalement se rendent compte des positions des uns et des autres, mais ne bougent pas des leurs.
Ouais, non, c'était, enfin, voilà, c'était vraiment un épisode qui vaut le coup par ses dialogues. Mais bon, sinon, il se passe pas grand-chose, hein, faut être
Bah, on a
honnête.
quand même une petite révélation finale, un petit
Ouais.
cliffhanger sympathique, avec
Oui.
Triton, qui, parti lui aussi explorer la faille, entend la voix de Black Bolt.
Et d'ailleurs, c'est assez bizarre d'entendre la voix de Black Bolt.
Bah oui, c'est ça. Non seulement c'est bizarre, mais bon, un retour possible de Black Bolt, on verra. Sympathique, mais voilà, sans plus, quoi.
Ce sans plus, et alors justement on va continuer dans la même série, enfin plus ou
Ouais.
moins.
Rime of King Imperial Guard numéro 2, DNA au scénario, Kevin Walker au dessin. Donc on a l'Imperial Guard qui est parti avec les Starjammers, donc leurs ennemis jurés, puisque il faut se rappeler de l'époque. À l'époque des X-Men où il y avait tous ces voyages intersidéraux et que l'on voyait la garde impériale face aux pirates Starjammers, donc
Ouais,
ils ont vraiment de
la
la
grande
savoir.
époque.
Et donc eux aussi partent explorer la faille, j'ai l'impression de me répéter. C'est
C'est
terrible.
bizarre. C'est bizarre. Il doit y avoir une faille quelque part.
Et ils tombent sur des choses pas bien.
Oui.
Voilà.
Oui.
Ils sont
Oui,
dans la
enfin.
faille, ils voient que la faille, il y a des choses dans la faille, quoi. Il y a des choses vivantes dans la faille.
Et non, mais j'allais dire, faut être honnête, c'est vraiment pas un épisode super transcendant non plus.
Bon, il y a toujours le personnage de Mentor qui me fait rigoler,
Ouais.
qui est vraiment Brainiac de la Légion.
Oui, totalement, totalement.
Mais de toute façon, c'est normal puisque l'Imperial Guard et la Légion.
Oui, à la
Voilà.
base, c'était une parodie de la Légion, quoi. C'était un peu la même veine, quoi.
Pas vraiment une parodie, hein, c'était un peu le même auteur, quoi. Enfin, voilà, moi ce personnage me fait rire, quoi.
Oui, moi aussi. Oui, non, mais
Et.
enfin, c'est pas mauvais. Disons que c'est juste. J'attends de voir. Il y a combien de parties? 5?
5, ouais.
Ouais,
Et je trouve pour le moment cette mini moins bonne que celle des Inhumains.
Ouais, non, totalement. Et surtout, on se demande pourquoi 5 parties, enfin, est-ce vraiment utile, quoi? Ça aurait pu être un one shot, limite.
On verra où ça va nous amener. Ah, c'est vrai que pour le moment, on se demande où ça va.
Mais je comprends, enfin, qu'avec des mini-séries comme ça, comment dire, cosmique, ait été en perte de vitesse, quoi.
Mais autant sur les Inhumains, je peux comprendre l'intérêt de la mini-série. Puisqu'il faut essayer de montrer que les humains arrivent à gérer l'après-conflit, ça j'arrive à comprendre, mais celle d'Imperial Guard, pour le moment, je suis un peu perplexe, quoi. Où est-ce que ça va? Ça, je sais pas. On verra bien, quoi. Mais c'est vrai que je suis vraiment pas passionné.
Est-ce que Nova est plus passionnant?
Ouais, épisode 32-33, DNA au scénario, Andrea DiVito au dessin et à l'ancrage. Et donc, Dark Hawk et Nova allaient disparaître en même temps que la planète qui était engloutie dans la faille. Et ils sont sauvés in extremis par le Sphinx.
Ouais, le retour du
Retour du
Sphinx.
Sphinx. Personnage qu'on n'avait pas vu
Longtemps.
depuis longtemps. Moi, mes derniers souvenirs du Sphinx remontent à New Warriors premier volume.
Moi, ça remonte à justement dans Nova, mais pas Nova la série, Nova le magazine Nova. Je me rappelle d'une couverture où il y avait le Sphinx et c'est vraiment ancien. Alors je sais plus dans quoi c'était. En fait, ça devait être dans les Quatre Fantastiques, tout simplement. Ils affrontaient le Sphinx.
Tu n'avais pas lu les New Warriors à l'époque du Special Strange?
Non, non.
Ah.
Et non, puisque moi, j'ai pas beaucoup acheté Special Strange, en fait.
C'est pour ça. Alors, ils sont sauvés par le Sphinx qui les emmène dans l'Ancienne Égypte, en tout cas en apparence. Et là, ils se retrouvent avec plusieurs versions de plusieurs personnages, mais pris à divers moments du temps. Une sorte d'exilé, en quelque sorte.
Oui, c'est ça. Ça m'a fait penser aussi à ça, encore une fois. Une version des exilés avec Nova, Darkhawk. Puis on peut le dire quand
Oui,
même.
on va dire qu'il y a. Il y a Reed Richards,
Oui, voilà.
Namorita et
Oui,
Black
qui fait
Bolt.
son retour.
Alors Namorita, l'éternel amour de Nova, c'est assez intéressant comme retour, quoi.
Ouais. Non, non, mais ces épisodes sont assez sympas. C'est peut-être les meilleurs épisodes d'ailleurs du magazine. Enfin, c'est ceux qui m'ont le plus intéressé. Et surtout le personnage du Sphinx est assez intéressant. Et alors, si on pouvait résumer un petit peu qui est ce personnage en quelques mots, est-ce que c'est possible?
Non, c'est pas possible.
D'accord. Très bien,
Non,
merci Steve.
c'est une entité qui voyage à travers le temps et qui
Ouais,
peut
alors
faire,
rien à voir
qui peut
avec
modifier la réalité, quoi.
rien à voir avec Kang. Hein. D'accord. Parce qu'on pourrait confondre les deux.
Ah, c'est pas Ramatout, c'est pas la même.
Oui, c'est pas Ramatut, oui. D'ailleurs, il donne son nom, mais je sais plus. Je sais plus comment il s'appelle. Oui,
Donc.
donc rien à voir avec le père de Reed, justement.
Pourquoi le père de Reed?
Parce que le père de Reed, si je me souviens bien, est lié à Kang. Non?
Ah, ça, je sais pas.
Je crois que Nathaniel Richards, c'est une version de Kang.
Ah bon?
Oui. Justement, moi, ça m'a étonné l'autre fois, j'ai lu ça dans un édito Panini, je sais plus à propos de quelle revue, et je me suis dit, ah putain, c'est intéressant, je savais pas.
D'accord, ben je ne
Alors
sais pas.
écoutez, bah alors, si y a des gens qui nous écoutent, qui peuvent nous éclairer là-dessus, ils seront les bienvenus, parce
Oui,
que...
alors là, je suis perdu.
Bon.
Je dois avouer qu'en plus, la petite déconnexion qu'il y a eu, ça a
Oui,
un petit peu cassé le
n'a pas
rythme.
aidé, oui, voilà, c'est ça.
Une petite déconnexion là pendant la review, ça a un peu cassé le rythme. Bon, alors, le Sphinx révèle aussi son plan. Et c'est assez intéressant. On
Ouais.
verra où ça va. Bon, sûrement de la grosse baston.
Bah, et on verra où ça va, on va voir si ça tourne pas en boucle, j'ai envie de
Ouais,
dire, puisque
aussi, oui, aussi, oui.
il s'agit de boucles temporelles en l'occurrence, donc
En tout cas, c'est vrai que ces épisodes-là sont plutôt bons. Moi, de toute façon, dans l'ensemble, la série Nova, je suis vraiment un gros client.
Ouais, bah, les Gardiens de la Galaxie aussi avant étaient même peut-être supérieurs par moment, mais là ils sont en perte de vitesse et
La
Nova.
direction prisme, ouais, me plaît moins aussi.
Ouais, Nova regagne en intérêt. Donc, bon, au final, si on n'a plus rien à dire sur les épisodes de Nova, un mensuel toujours sympa hein, quand même.
Ouais, un peu moins bon quand même,
Ouais,
ça.
un peu moins bon.
C'est dommage, mais bon, ne désespérons pas.
Pour 5,60€ quand même, 6 séries. On fera pas mieux, hein, je pense.
Là, ça va être difficile. Allez, on va continuer, on va rester dans Marvel Universe avec le Marvel Heroes Extra numéro 6. C'est la série Hawkeye et Mockingbird, plus un petit épisode tiré d'Enter the Heroic Age qui présentait la série comme on avait eu droit pour les Thunderbolts par exemple. Le tout est scénarisé par Jim McCann, David Lopez au dessin, Alvaro Lopez à l'ancrage. Jim McCann, c'était celui qui avait écrit la première mini-série sur les deux personnages, les retrouvailles, qui s'appelait New Avengers The Reunion, qu'on avait eu aussi en français, cette mini-série.
Ouais.
Et qui était sortie pendant le Dark Reign, juste après Secret Invasion.
Voilà. Qui était une sorte de monsieur et
Prélude, ouais.
madame.
Ouais, Monsieur Madame Smith, ouais, c'est sûr.
Voilà.
Et c'était un prélude à cette série. Et c'est vrai que cette série a mis énormément de temps à venir, peut-être un peu trop, parce que le buzz était retombé.
Ouais. Bah, c'est-à-dire que sur les couves originales, j'ai vu qu'ils mettaient à chaque fois un petit message. Donc il y avait IGN, je sais plus quel autre site d'ailleurs. Qui disait que c'était vraiment une série
Il y avait
sympa et à
Until Cool
suivre.
News, il y avait... Oh, je ne sais plus, il y en avait pas mal, ouais.
Il y en avait pas mal. Et moi honnêtement, je te dis franchement, Hawkeye m'intéresse moyennement, en fait ça dépend. Mockingbird m'intéresse, mais alors absolument pas à la base. C'est-à-dire que quand elle est revenue, je m'en foutais complètement de Mockingbird, comme de ma première, mettez ce que vous voulez, encore une fois. Mais voilà, et là, je dois te dire que autant la première mini. M'avait intéressé au personnage, autant là, j'ai plus du tout envie de les lire, quoi. C'est
Bah de toute
synonyme
façon,
de...
tu n'auras pas besoin d'avoir envie de les lire ou pas, puisque la série est complète.
Oui, voilà, c'est ça aussi qu'il faut dire, c'est qu'à la base c'était un ongoing, et puis au fait ça a été réduit en 6.
S'est arrêté au bout du sixième épisode. On en reparlera un petit peu tout à l'heure quand on aura avancé un peu sur le pitch quand même. Mockingbird, depuis son retour de chez les Skrulls, n'avait pas eu envie de vraiment réintégrer les Avengers, et donc elle avait monté une agence antiterroriste de son côté, qui s'appelait, en tout cas en anglais, la WCA, donc petit clin d'œil aux West Coast Avengers, dont elle faisait partie avec Hawkeye, bien sûr. Et donc ils chassaient les terroristes. Là, quand ça commence, ils sont à la poursuite de trafiquants d'armes. Il y a une recrudescence de trafic d'armes à New York, et ils poursuivent, essayent de savoir qui est derrière tout ça. Et celui qui est derrière tout ça, c'est Crossfire, donc un ennemi qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment aussi.
Ouais, qui me manquait pas particulièrement. Enfin si, on l'a vu avec le Red Hood, par exemple.
Ouais. Hood, tout court. Red Hood, c'est
ah oui, c'est vrai. C'est...
Mais voilà, depuis, on l'avait, il avait disparu. Quoi. Donc là, il est de retour. Et puis, on a aussi le retour d'un personnage marquant dans la vie de Bobby Morse, donc Mockingbird, le Phantom Rider.
Ouh.
Alors, si on n'a pas lu les épisodes de West Coast Avengers...
Eh oui, oui. C'est vrai que ça intéresse encore moins. Mais là,
ce qu'il y a de bien, c'est quand même que c'est rappelé. Tout ce qui s'est passé, ouais. Il est rappelé.
Ouais, ouais. Mais en fait, c'est des personnages qui, comme je te disais, me passionnent guère, à la base. Et là, j'ai l'impression que Jim McCann, je sais pas si... Enfin, contrairement à la première mini, on a l'impression qu'il avait pas tellement envie de nous intéresser à ces personnages. C'est-à-dire que ça traîne en longueur, j'ai trouvé. Et puis, il y avait beaucoup de dialogues pour rien, quoi.
Alors, c'est très verbeux.
Oui, pour pas grand-chose.
Il y a énormément de textes, que ce soit du dialogue ou de la narration. C'est le même principe que la première mini-série. Et moi, franchement, ça me plaît bien, quoi. J'aime bien la façon qu'il a de tenir les personnages. Je trouve qu'il leur donne vraiment une bonne voix à chacun.
Mais écoute, autant sur Invincible, par exemple, où Kirkman est assez verbeux aussi, je trouve que ça sert bien les persos, autant là... enfin, voilà, c'est vraiment des persos auxquels je suis pas du tout attaché, et là, l'intrigue m'a pas du tout intéressé.
De toute façon, tu n'as pas été le seul, puisque cette série était un énorme succès critique, mais pas du tout un succès public, d'où son arrêt au bout de 6 épisodes. Moi, je sais que ça m'a vraiment plu. Alors, oui, il y a quelques longueurs, je suis d'accord avec toi. Il y a quelques longueurs. Et je pense que le premier arc aurait dû s'arrêter en 4 et non en 5.
Ouais, ouais. Bah, en fait, voilà, il y a une première partie. Bah, je crois d'ailleurs que c'est la dernière partie, le sixième épisode qui est un peu différent des autres. Bah,
le sixième est un stand-alone. Il a annoncé, alors à la base il devait y avoir un crossover entre la série Black Widow, qu'on aura je crois peut-être au mois de juin en librairie. Et ouais. Donc il y avait un crossover entre ces deux séries de prévu. Donc après le numéro 6, ça devait être le numéro 7 qui devait être le début du crossover. Et finalement, comme la série s'est arrêtée, ils ont décidé de faire une mini-série, Widowmaker, qui est en fait ce crossover.
Qui est à mon sens un peu plus intéressante, ne serait-ce que dans le pitch de base.
Ce qu'il y a de dommage, c'est qu'on a beaucoup d'intrigues qui nous sont amenés, notamment avec ce sixième épisode, mais qu'on sait qu'on n'aura pas de suite.
Voilà.
À part l'intrigue principale qui va être développée dans Widowmaker, pour le moment, on n'a pas de suite. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce qu'on a le sort de Dominic Fortune, qui a engagé Crossfire, tout ça, quoi, qui est laissé en suspens et qui, finalement, pour le moment, n'aboutira pas. Quoi.
Enfin, moi, je t'avoue que c'est des questions que j'ai très vite oubliées, et puis surtout voilà, enfin il y a beaucoup de clichés aussi dans cette j'ai trouvé dans cette mini beaucoup de scènes où du style je sais pas, Dominic Fortune, il a vraiment des répliques enfin je pense que Jim McCann a voulu faire exprès, quoi, mais
oui, mais en même temps c'est un mec des années 50.
Des répliques bateau. Oui, voilà, c'est ça.
Je veux dire, le mec a pas forcément changé depuis les années 50. De toute façon, rien qu'à la façon dont il parle, quoi. On le sent. Moi, j'ai bien aimé le traitement, surtout d'Hawkeye. On sent que Jim McCann aime plus le personnage d'Hawkeye que de Mockingbird. C'est un peu méchant de dire ça, mais
non,
il est plus
non,
en avant Hawkeye, et c'est vraiment plus... Dans le titre, c'est Hawkeye et Mockingbird. C'est vraiment Hawkeye en priorité, quoi. Il y a tout un changement sur le personnage d'Hawkeye dans cette série qui est vraiment sympa.
Ouais.
J'ai bien aimé la scène où... Bon, je vais pas en révéler trop parce que je veux pas trop spoiler, mais la scène où il discute avec Crossfire derrière une vitre.
Oui, ça c'est dans le dernier, oui.
Pour pas en dire plus. Et ce que dessine Crossfire sur la vitre, je trouve ça énorme.
Ouais, ouais. Bah non, mais il y avait quand même de bonnes idées, c'est vrai, mais bon, c'était noyé dans une intrigue qui était pas franchement passionnante, j'ai trouvé. En fait, le plus passionnant, j'ai trouvé que c'était la dernière partie, quoi, le standalone. Enfin, ouais. Ça commençait à être intéressant.
Comme je dis, le problème, c'est d'avoir fait durer l'arc en 5, quoi. Je pense qu'en 4, ça aurait été peut-être un peu plus rythmé. Quoi.
Il pensait que sa série, peut-être, n'allait pas disparaître aussi vite, aussi.
Ouais. Bon, il installe aussi les personnages qui font partie de ces WCA. Tous les gens qui sont dans l'ombre, celle qui leur fabrique les gadgets un peu à la James Bond, celui qui hack les ordinateurs, la fille qui est folle des explosifs.
Oui, un petit peu une équipe de losers, quoi. Enfin, ouais, losers dans le sens de la série.
C'est le truc d'espionnage classique, quoi. Mais c'est toujours efficace. Je trouve ça toujours efficace, quoi. Moi, ça, pour moi, ça marche. Donc bon, c'est sympa. Il y aura pas de suite. Donc à vous de voir si vous avez envie de vous lancer. Je sais pas s'ils publieront Widowmaker en français. Je sais pas du tout.
Ah si, je pense. Ah si. J'imagine que oui. Par contre, je sais pas si ce sera dans un hors-série ou plutôt dans un format 100%. Mais je pense qu'on l'aura. Hein.
Pour toi, c'est quelque chose que bref, on peut éviter, quoi.
Qu'on peut, oui, dont on peut se passer. Bon, après, si vous êtes fan des personnages et que vous avez lu West Coast Avengers surtout, peut-être que ça vous fera plaisir.
Bah, moi, je dirais que plus récemment, si vous avez, si vous n'avez pas aimé la mini-série New Avengers de Reunion, bah, n'allez pas chercher ça, ça ne vaudra pas
Oui,
la peine.
non, surtout oui.
Voilà. Bon, bah, un avis mitigé sur celui-ci. Hein.
Ouais.
Allez, on passe à la dernière review, DC Legacies numéro 1. Alors, on va faire le tour des artistes. Alors, il y en a un bon paquet. Au scénario, on retrouve Len Wein. Et alors, au dessin, on a Scott Collins dans tous les épisodes pour les deux premières pages. Et puis, sur le reste, on a, pour les deux premiers épisodes, Andy Kubert, ancré par son papa, Joe. Pour les 3 et 4, José Luis García López, ancré par Dave Gibbons. Et pour le cinquième, George Pérez, ancré par Scott Koblish.
Donc autant le dire, des illustres inconnus, quoi.
Oui, des mecs sortis de nulle part.
Quoi. Mais bah, qui ont fait des petites écoles de dessin. Puis voilà.
cette série est en 10 épisodes, donc elle est coupée en deux au cinquième.
Par Panini, voilà. Parce que bon, c'est des épisodes doubles.
C'est des épisodes qui sont plus gros, oui. Et bon, on a aussi des backups, j'y viendrai tout à l'heure avec d'autres artistes, on en parlera vite fait sur la fin.
C'est quand même 15 euros.
Oui, mais en même temps, il y a beaucoup de lectures.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
Voilà.
C'est vrai.
C'est une mini-série qui a pour but de mettre un peu à plat les origines du DC Universe. C'est-à-dire de nous faire vraiment du point de départ de l'arrivée des super-héros jusqu'à aujourd'hui. Les grands moments, les choses qu'ils ont traversées, et nous montrer un petit peu comment le monde a tourné autour des super-héros. Pour moi, d'entrée de jeu, j'ai envie de dire pari réussi.
Alors en fait, il y a oui et non. En fait, je dirais que c'est un petit peu le pendant de Marvel, donc de Kurt Busiek et Alex Ross. Cependant, eux, ils s'étaient vraiment concentrés en fait sur le tout début de Marvel, si je me souviens bien, les premières années. Alors que là, comme tu dis, ça va jusqu'à nos jours, à la
en
fin.
Fait, ça marche par arc de deux épisodes. C'est-à-dire que les deux premiers, ce sont les épisodes qui sont centrés sur le Golden Age. Les 3 et 4, c'est le Silver Age. Le 5 et 6, donc, puisque ça marche par deux, c'est Crisis.
Alors, le truc, c'est que
ça arrête là au milieu de Crisis, quoi.
En tout cas, sur la première partie, sur les 5 premiers épisodes, j'ai trouvé que, au fait, c'est un petit peu dommage de pas s'être fixé une période donnée sur toute la série, quoi. Parce que il y a vraiment des périodes qui demanderaient plus d'exploration et plus de détails, en fait.
Bah, je pense que pour avoir une vue générale, moi, je trouve que c'est bien, quoi.
Ouais. Ouais, mais du coup, c'est peut-être moins intéressant que si ça avait été comme Marvel, plus concentré sur une période donnée. J'ai bien aimé le début, au fait, sur les origines de la Justice Society. Mais après, j'ai trouvé ça trop résumé, quoi.
En fait, on suit un certain Paul Lincoln,
voilà,
qui raconte sa vie pendant qu'il est vieux. Donc ce sont les deux pages de chaque début d'épisode dessinées par Scott Collins. Et qui raconte qu'il a croisé les super-héros tout au long de sa vie, qui l'ont un petit peu aidé dans sa vie à certains moments, qui l'ont mis sur le droit chemin, etc. Il est devenu fan en plus des super-héros. Et on voit comment sa vie s'est organisée avec ces super-héros qui apparaissent dans le paysage.
Ouais.
Qu'est-ce que ça a pu faire sur le commun des mortels? Et moi, franchement, j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré toute la mini-série, en fait. C'est vraiment bien foutu, et surtout, c'est un super bon point d'entrée pour qui ne connaîtrait pas le DC Universe.
Oui, alors ça c'est pratique, oui. C'est mieux qu'une encyclopédie, quoi. C'est vraiment une encyclopédie en histoire.
Ouais, c'est plus fun à lire, quoi.
Oui, voilà, exactement. Mais de toute façon, ça reprend vraiment le principe de Marvel quand même, hein. Enfin de Marvel, de cette série Marvel par Kurt Busiek et Alex Ross. Mais enfin voilà, c'est juste le côté gros résumé au fait que je trouve un petit peu dommage. Disons qu'il y a peut-être des périodes qui auraient demandé trois épisodes plutôt que deux.
Ouais, mais bon, c'était le pari d'une série en
bien
ligne.
Sûr.
Moi,
bien
sûr. Moi, je trouve que Len Wein s'en sort vraiment bien pour tout nous lier. Alors, il change quelques petits trucs.
Ouais.
Il change quelques petits trucs dans,
bon, enfin, c'est pas...
dans la continuité, notamment le problème des différentes terres, de la GLC, Terre 1, Terre 2, etc. Ça, il efface tranquillement. Il remet les choses à plat, parce que c'est vrai que la continuité d'essai avait pas mal bougé. Et c'était
mais
difficile
alors,
de s'y retrouver.
Est-ce que ça, c'est la continuité qui fait foi maintenant?
Oui.
Oui.
Oui, oui. C'est là, par rapport à la continuité actuelle de l'univers DC. Donc ça, c'est vraiment pratique. Enfin, grosso modo, on a donc, comme je disais, la période du Golden Age, avec la formation de la JSA, etc. Leurs exploits. puis leur chute.
Oui, voilà, et puis le Silver Age avec la JLA.
La JLA.
La rencontre entre les deux.
Ouais, le retour de des anciennes gloires.
Voilà, avec la rencontre des deux Flash. Ça, c'est magnifique, quand même la fameuse rencontre mythique.
Ouais. C'est plein d'images comme ça qu'on a vu par-ci par-là. Il s'inspire de certains épisodes et pour le mettre ça à travers les yeux de ce Paul Lincoln qui est un civil classique, quoi.
Ouais, ouais. Mais c'est justement à partir de là que j'ai trouvé ça un peu plus rushé et je trouvais ça dommage. Tu sais, sur la période à partir de la JLA, voilà, ça accélère. Puis d'un seul coup, on passe à Crisis.
Et alors là, qui mieux que Georges Pérez?
Ah oui.
Pour Crisis.
Évidemment.
Enfin, je veux dire.
Enfin, qui mieux, qui d'autre, j'allais dire. Est-ce que ouais. Ça aurait été possible avec quelqu'un d'autre? Je pense pas.
Ah bah, l'art de nous mettre 150 personnages sur une case de 3 cm sur 3.
Voilà.
Et qu'on peut tous
sur un timbre poste.
Et bien sûr, on peut arriver à reconnaître chaque personnage.
Bien entendu. Avec un microscope, mais on peut les reconnaître.
C'est magnifique.
Oui, non, c'est pas mal du tout. Enfin, c'est même très bon. Parlons aussi peut-être des...
Bah, les backups, ouais. Alors, oui. Dans chaque épisode, on a un petit backup qui nous donne des informations sur telle ou telle équipe de la période donnée et des équipes un peu moins connues. Alors bon, le premier backup est par J.G. Jones qui se concentre un peu sur deux personnages, Dr. Fate et Spectre. Sympa, les gens, enfin des flics qui ne croient pas trop, qui pensent que ce sont que des tours de magie, etc., qui ne veulent pas croire au pouvoir des super-héros.
Alors ça, c'est quand même deux personnages connus. Malgré tout. Enfin, c'est pas les plus connus, mais ils sont quand même connus.
Ah, c'est les personnages qui aujourd'hui ont quand même...
Peu de visibilité.
Ouais, voilà, ils ont bien disparu, quoi.
Oui. Mais alors, par contre, il y a après une équipe, alors là, je ne connaissais personne.
Les Seven Soldiers of Victory.
Ah oui,
alors,
voilà.
Mis en image par J.H. Williams III.
Ouais.
Super mise en page, comme d'habitude. On a un autre backup sur les Challengers of the Unknown et les Sea Devils, par Dave Gibbons.
Voilà.
Alors là, pareil, des personnages relativement peu connus.
Ouais, enfin, les Challengers of the Unknown, un peu plus que les autres.
Un peu plus, ouais. Moi, j'en ai lu pas mal quand j'étais plus jeune.
Ouais, c'est pour ça, on comprend mieux maintenant.
Ensuite, on a un backup par Joe Kubert, Our Army at Wars. Mm-hmm. Donc là, sur le Sergent Rock.
Oui, le fameux Sergent Rock.
L'emblème des comics de guerre chez DC.
Voilà, c'est ça.
Et puis, enfin, on a Walt Simonson sur un backup concernant Adam Strange. D'ailleurs, un Walt Simonson que j'ai trouvé en petite forme qui faisait plus du shaking qu'autre chose.
C'est vrai, oui.
J'avais l'impression de voir shaking sur certaines pages.
Enfin,
c'était
Walt
troublant.
Simonson, oui, c'est vrai que c'est un petit peu shakingisé avec les années.
Et là, je sais pas, c'était troublant, quoi. Au début, je me suis dit, mais attends, c'est shaking qui dessine ou quoi? Je suis revenu et je fais, ah non, c'est Walt Simonson. C'est bizarre. Mais Donc voilà, des personnages pas forcément super connus, mais des backups toujours intéressants. Une petite histoire en 7-8 pages, avec une petite conclusion à chaque fois.
Non, mais globalement, enfin franchement, il y a de quoi lire. Il y a de quoi découvrir l'univers d'ici vraiment d'une manière fun et divertissante, et en plus avec une bonne histoire à la clé.
Ouais.
Bon,
il y aura un tome 2, qui sera la fin.
Il y aura un tome 2, donc voilà. Donc c'est-à-dire pour 30€ finalement au final.
Ouais.
Normalement, vous devriez avoir une grosse histoire qui vous explique de A à Z tout jusqu'à maintenant et qui vous permettra donc de vous intéresser, de vous mettre à DC peut-être si c'est pas déjà fait.
Alors bien sûr, comme dit Benny, c'est vrai, c'est un résumé.
Mais
en même
oui,
temps,
alors,
voilà, c'était d'entrée de jeu prévu pour être un résumé. Quoi.
C'est-à-dire que l'intérêt est moindre pour les gens comme nous qui suivons l'univers DC depuis des années. Là, finalement, on apprendra peu de choses. Reste l'histoire qui est quand même divertissante. Et puis bon bah les artistes, évidemment, qui sont nombreux et c'est toujours sympathique de voir du Gibbons ou de voir du J.H. Williams III qui nous raconte tout ça, quoi.
Et puis bien sûr, il y aura d'autres artistes pour les deux prochaines périodes qui seront abordées.
Par contre, ce sera toujours Len Wein au scénario.
Toujours Len Wein au scénario, qui est là du début jusqu'à la fin. Reste le problème, là entièrement dû à Panini, d'avoir appelé ça DC Legacies, avec le kiosque qui s'appelle aussi DC Legacies.
C'est vrai que ça prête à confusion, notamment quand tu dois passer des commandes. C'est toujours l'éternel problème quand tu vas dans un comic shop ou une librairie lambda. Alors, et que tu commandes un bouquin, c'est toujours compliqué, quoi.
C'est de la librairie, c'est pas du kiosque, donc faites attention.
Oui, voilà, c'est ça.
Quoique le DC Legacy numéro 1, c'était Flash Rebirth, donc c'est quand même pas une mauvaise pioche.
Ouais, mais...
Mais quand même.
Oui, mais quand même, quoi. Le prix est pas le même, surtout. Bon, ben voilà, bon, bah alors...
Pour moi, une très bonne pioche.
J'allais dire globalement une quinzaine en
moyenne.
Moyenne.
Mais tout peut pas être toujours très bon.
Quel philosophe, ce Steve, à chaque fois, je suis surpris.
Il y en a sous les poils.
Ouais.
C'est ça, d'ailleurs, la philosophie, ça vient avec la barbe.
Très bien. comme le père Foura, c'est tous ces gens, tous ces grands philosophes de notre temps.
Ouais.
Ok, on a un mail.
Oui, on a un mail. Alors, on avait demandé dans le dernier Comics Weekly à la personne qui nous avait envoyé un mail de nous le renvoyer, parce qu'on a eu un petit problème sur notre serveur de mail. On a perdu les mails la semaine dernière.
Oh bah, d'habitude, tu dis les mots. Une couille.
Oui, une couille, oui. On a une grosse couille, même. Bah, cette personne a été assez gentille pour te le renvoyer, donc merci à lui, déjà. C'est un mail, donc, de Bart Allen.
Ah bon?
Qui... Oui. Oui, il nous envoie un mail du futur.
Très bien. Ça fait toujours plaisir de savoir. C'est peut-être pour ça que ça a déconné.
D'ailleurs, il nous l'a renvoyé à toute vitesse.
Mais non, mais c'est pour ça que ça a déconné, au fait. Parce que notre boîte mail est pas encore adaptée pour recevoir des mails du futur.
Ah, c'était pour ça.
Mais oui.
Donc, il nous dit, salut à tous, je pense que c'est mon mail que vous avez perdu. Oui, ça devait être ça, oui.
J'ai perdu du temps.
Ben, j'espère en tout cas que c'est bien celui-ci. Je vous écoute depuis l'été dernier et trouve vos podcasts vraiment top. Comic City me permet d'avoir vos avis sur ce qui sort en France, et Comic City m'offre une bonne dose de spoilers. Je sais pas pourquoi, mais j'aime me faire spoiler.
On essaye quand même de pas entièrement spoiler.
Disons que forcément, il y a des spoilers pour Comics Weekly, puisque ça suit l'actualité VO.
Oui.
Contrairement à Comic City, qui suit l'actualité VF. Mmh. Donc voilà, enfin, c'est vrai que j'ai vu des réactions assez bizarres ces derniers temps, des gens qui disaient, ouais, mais Comics Weekly, il y a beaucoup de spoilers. Mais oui, mais c'est l'actualité VO, enfin, on peut pas occulter les éléments qui se sont passés pendant les 8 mois de décalage français. C'est pas possible, quoi. On est obligé de parler de ce qui s'est passé pendant ces 8 derniers mois.
Par contre,
pour les histoires d'aujourd'hui.
Oui, mais par contre, quand on en parle, pour ceux qui lisent la VO, on ne spoil pas, genre, la fin de Brightest Day, ce genre de choses.
Voilà, on évite de
du moins, on essaye. Oui.
On ne spoil pas la fin de l'épisode qu'on chronique. Par contre, la semaine d'après, voilà, on peut pas non plus garder trop longtemps le mystère. Sinon, on n'a plus de review à faire, quoi.
Voilà. On est forcément obligé de revenir dessus, quoi.
Je continue le message de Bart Allen. Les autres podcasts, c'est que du bonus et du bonheur. J'arrive à ma question. Je suis principalement ce qui sort en français, mais je me suis mis à Booster Gold pour préparer Flashpoint. Et je voulais savoir s'il y a d'autres séries à lire avant ça. Et d'après vous, lesquelles seront publiées en français? Continuez comme ça. Et donc, c'est signé Bart Allen. De toute façon, la seule autre série à lire, pour moi...
Flash.
Flash. Flash qui, normalement, enfin, je l'espère, devrait publier en français.
Oh bah oui.
Ça m'étonnerait que Panini passe à côté.
Oui, non, c'est pas possible. Sinon, ils pourront même pas publier Flash, je pense.
Bah, je ne vois pas l'intérêt de publier Flash Rebirth si on ne publie pas la série Flash ensuite.
Tout à fait. Sauf si Flash Rebirth n'a pas du tout fonctionné, mais il y a un regain d'intérêt. Alors ça, c'est plutôt positif. Pour les revues Panini DC en kiosque, par exemple, les Batman Universe, les premiers, ne se trouvent plus.
Mais il faut savoir que la série Flash a démarré après Blackest Night. Donc de toute façon, il faudra attendre la fin de Blackest Night en France pour pouvoir avoir Flash, qui devrait sortir dans les pages de DC Universe, je pense.
Bah, qui devrait même commencer cette année, puisque je crois que la fin de Blackest Night, c'est quand même pour dans pas très, très longtemps, quoi.
Pour juillet.
Oui, voilà.
Mais ça va être assez rapide.
Oh là là.
Oui, ouais, je sais, c'est facile. Donc voilà, à part ça, moi je vois pas d'autres séries qui permettraient de mieux comprendre Flashpoint. Là, à première vue...
Non, de toute façon, après, dans Flashpoint...
Parce que ni Brightest Day, ni Generation Lost ne préparent Flashpoint. Enfin, j'en ai pas l'impression.
Non.
Alors,
non.
Reste peut-être ce qui sortira bientôt, le Brightest Day Aftermath.
Je pense pas. Je pense que ce sera plus explication de ce qui s'est passé durant Brightest Day que de préparer Flashpoint.
Mais bon. Brightest Day que nous aurons en français.
Oui.
Generation Lost, apparemment pas.
Quel dommage. Enfin bon.
Voilà. Non, mais franchement, normalement, l'autre série à suivre, ce serait ça. Maintenant, Booster Gold, je suis pas certain qu'il y ait vraiment un gros lien avec Flashpoint. Il y avait eu, à la fin d'une mini-série que je vais pas nommer parce que je vais éviter le spoil, la mini-série avec Rip Hunter.
Mm-hmm.
Voilà. À la fin, il y avait eu, c'est sûr, des indices pour Flashpoint. Il est clair que cette mini-série, ça me paraît improbable qu'elle soit publiée en français.
Ah oui, totalement là.
Et bon, la série Booster Gold, on sait très bien, ne sera pas publiée. Mais comme j'ai pas suivi les derniers épisodes de Booster Gold, je sais pas s'il y a vraiment un gros lien avec Flashpoint. Toi non plus, j'imagine.
Du tout.
Je sais que après la série Booster Gold sera liée à Flashpoint à partir du début de Flashpoint, mais avant, est-ce qu'il y a des liens pour préparer tout ça? Je ne sais pas.
Ah, je pense que c'est surtout la question, c'est surtout par rapport aux théories sur le futur, etc., que dresse Booster Gold à chaque fois, et du coup,
Et puis le retour du tableau, comme dans
ouais,
Saint-Germain
voilà.
2. Voilà.
Oui. Le tableau qui devient un personnage à part entière.
On n'en dira pas plus, déjà, on en dit
D'ailleurs, il va y
beaucoup.
avoir un ongoing, le tableau. The tableau.
J'allais la faire. Ah, c'est terrible. Ça donne sympa, je trouve. Ce tableau.
The tableau. Ouais. Je
Bon, ça
pense
se
que
dit pas du tout comme ça, mais c'est pas grave.
non, pas du tout. Mais sinon, ce serait pas drôle.
Bien, bah écoute, j'espère qu'on a bien répondu à ta question, Bart. Je t'appelle Bart, hein, on est familier maintenant. Oui, alors tu me laisses vraiment tout seul, c'est.
Ouais, vas-y, vas-y, fais-toi plaisir.
Oh, je me sens seul. Et puis, bah, c'est l'heure de nous quitter.
Oh, bah, encore mieux.
Ah,
Ami
bah, salaud!
dépressif, bonjour. Bah,
C'est l'heure de
écoute.
nous quitter, tant mieux. Bah, ça fait toujours plaisir.
Voilà, en
C'est super
plus.
agréable.
Oui, il était temps que ça cesse, cette folie.
On voit
On
qu'on est
se
aimé.
retrouve peut-être, je dis bien peut-être, dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Comic
Ouais,
City.
d'ici une quinzaine de jours, on va essayer de rattraper un peu le retard accumulé cette dernière
Ah mais
quinzaine.
je disais pas peut-être pour ça, hein. Je disais peut-être parce que si je ne sais pas, hein. Franchement.
D'accord, ok. Bon, c'est bien, j'apprends les choses en direct.
Voilà. Ensuite, on se retrouve dans Comic City, dans Comics Weekly.
Dans Comics Weekly, oui, les Comics Weekly, les spéciaux.
Ouais.
Ce mois-ci, puisqu'on est au mois de mai maintenant, vous aurez droit au Comic City Chronicles numéro 3, avec deux gros débats.
Oui. Et
Je
Léo.
vais pas
Et
donner
petit.
les... Oh là là! Là, mais... La moisissure t'atteint? Tu as des champignons?
Ouais, je suis l'homme champignon, ce champignon man.
On n'arrive jamais à finir. Bon, comme d'habitude, vous
D'ailleurs,
nous
je suis dans une
retrouvez.
pièce qui s'appelle la Mushroom.
Si ta décoration est pourrie, change-la, quoi.
Non, non, non,
Ouais, c'est pour la mushroom.
non. Ouais. Oh putain, oh là là, oh là là. Oh mon Dieu, il faut vraiment faire quelque chose.
Ouais, je sais
Envoyez-nous.
pas. Faut qu'on mange des clowns.
Non, surtout pas, non.
Envoyez-nous des clowns. Bon, on va faire le petit tour traditionnel, Facebook, Twitter. Twitter où le compte Comic City ainsi que le compte Cap Chronicles ont fusionné sur le compte Media Comics au niveau
Voilà,
de Twitter.
c'est compliqué, mais vous comprendrez tout en y allant. Et nos
Facebook,
partenaires.
la page Comic City, Twitter sur Media Comics.
Voilà, venez
Voilà.
sur Comic City lire les excellents articles de Sam et Nono qui se déchaînent en ce moment. Sam nous pond des romans sur Wonder
Intéressant en plus.
Woman,
En
sur
plus.
plein de trucs super intéressants.
Oui, parce qu'en plus, ça pourrait être des romans à chier, mais non, c'est
Non,
super
non.
intéressant.
Connaissant Sam d'ailleurs, c'est même surprenant, hein. C'est intéressant.
Et ben, il va être ravi. Je
Voilà.
pense qu'il va te casser la gueule virtuellement
Oh, il
ensuite.
écoute même pas, il nous écoute pas. Et que nos partenaires Cap Chronicles,
Oui.
donc venez lire, entre autres, la review de Thor, si ce n'est déjà fait, et puis toutes les news, infos qui circulent
Auto-promo!
sur les comics. Tout est sur Cap Chronicles aussi.
Et puis bien sûr sur Media Comics.
Et sur Media Comics, venez chatter, discuter, vous retrouver entre vous.
Et
Sur
entre
Media
vous.
Comics, la place qui rassemble les amis.
Putain, le slogan de merde.
Ah oui. Ça fera plaisir à Claire aussi,
Bien.
ça.
Sur ce, on y va, hein,
Ouais,
avant de s'enfoncer encore plus.
voilà. Bon, je pense que là, on est déjà bien en dessous du niveau de la mer. Je crois que t'allais faire même une blague.
Ah mais là
En
on est en
rajouter
train
une deuxième.
de on est en train d'entamer la croûte terrestre là on va
Non, je pensais que t'allais me dire en dessous du niveau de la mer.
Michel
Non, mais oh la vache! Non, laisse tomber, laisse tomber.
j'ai très bien compris mais je ne veux pas le lire
Bon, allez, au revoir à tous.
à dans 15 jours peut-être